Mais le problème là, derrière le fichier, vous le donnez à Google. Et Google, c'est comme ça, parce que le service est gratuit. Mais derrière, il y a quand même une offre payante autour de Virus Total. Et l'offre payante, c'est l'accès aux données. C'est-à-dire que tous les fichiers qui sont soumis par tous les utilisateurs dans le monde, et il y en a beaucoup, eh ben, on peut s'abonner, on peut acheter l'accès au flux de fichiers, en fait. Et donc souvent, les ransomware, ils vont piller les données clients, les données, les informations personnelles qui devraient être protégées. On a la RGPD en France typiquement qui insiste beaucoup là-dessus. Et ils vont menacer les entreprises, ils vont les faire shutter en disant « si vous payez pas, ben on va divulguer toutes ces données clients sur le web, elles deviendront publiques et tout le monde y aura accès. »
Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson-Duvernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derberian. Vous êtes prêts? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery. Après les études à IMT Atlantique, il se lance dans la conception de processeurs de téléphones mobiles chez Renesas, puis il a rejoint le ministère des Armées pour prendre la direction d'un département de lutte contre les vulnérabilités informatiques. Puis en 2019, il fonde Glimpse. Est-ce que comment ça va,
Cyril? Eh ben très bien, merci. Bonjour.
Est-ce que j'ai pas trop mangé les noms?
Ça va, c'est parfait. On dit Glimpse, effectivement, c'est parfait.
Qu'est-ce que c'est Glimpse? Raconte-moi.
Donc Glimpse, c'est une entreprise qu'on a créée avec trois de mes anciens collègues du ministère des Armées. On faisait de la rétroconception logicielle là-bas, en fait, donc de la recherche de vulnérabilité informatique. Et donc on a créé cette entreprise pour fournir des solutions améliorées de détection et analyse de fichiers malveillants. Et notamment, on a une technologie à base d'intelligence artificielle qui est très efficace pour aller détecter les nouveaux variants de menaces de fichiers malveillants, en fait. Et c'est ces nouveaux variants, c'est ce qui fait vraiment le gros des dégâts aujourd'hui en France. C'est très facile, enfin dans le monde, c'est très facile en fait de créer des nouveaux variants d'une menace existante, d'un fichier malveillant existant, et c'est beaucoup plus difficile de les détecter. Et donc là où Glimpse apporte vraiment sa valeur ajoutée, et aussi dans une solution complète de détection et d'analyse, mais c'est cette capacité à les détecter les nouvelles menaces.
Donc on va pouvoir creuser tout ça, je pense que nos éditeurs du coup l'ont compris, on va parler de cybersécurité. En plus c'est un des sujets que je tease le plus, je pense, à ce micro, où je lâche tout le temps des petites briques disant que la cybersécurité, ça m'intéresse, que je fais même 2-3 trucs en cybersécurité. Mais on creuse jamais le sujet, donc c'est l'occasion parfaite. Vous êtes 3.
En fait, on est 4. On est 4 cofondateurs.
Ouais, 4 d'un ministère.
Oui, on est des anciens du ministère des Armées. On a quitté, en fait, le ministère des Armées il y a 4 ans, exactement. On était soutenu en fait hein, par le ministère des Armées dans notre démarche. C'est en 2019, le ministère des Armées, Madame Florence Parly et le président de la République avaient souhaité un petit peu reproduire le modèle israélien qui fonctionne bien un peu des SMH et donc a créé un incubateur qui s'appelle la Cyberdéfense Factory. Et donc on était le projet pilote en fait de cet incubateur.
Sympa pour lever des fonds.
Ça donne une crédibilité. C'est effectivement quand la ministre des Armées vous fait confiance, c'est effectivement tout de suite ça donne oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la cybersécurité? Qu'est-ce que c'est déjà la sécurité informatique? Pourquoi ça existe? Pourquoi il y a des vulnérabilités informatiques? Est-ce que tu peux me faire un petit panorama de tout ça?
Oui, ben la sécurité informatique, ça va être c'est l'ensemble des moyens qu'on met en œuvre pour protéger un réseau informatique face à des menaces qui vont être de différentes formes. Mais en gros, les objectifs qu'on va chercher avec la sécurité informatique, ils vont répondre à trois piliers. Ça va être confidentialité, intégrité et j'en oublie un, et disponibilité bien sûr, pouvoir accéder à un service. Donc la confidentialité, s'assurer que une information privée reste privée, la disponibilité, s'assurer qu'un service reste toujours accessible, qu'une information reste accessible, et l'intégrité, c'est vérifier qu'on n'a pas pu modifier une information effectivement en cours de route par exemple. Les risques, ça va être effectivement la violation de cette sécurité, la violation des données, les fuites d'informations, que ce soit sur un réseau au moment où elles transitent dans un système ou physiquement sur un poste de travail, par exemple. La sécurité informatique, c'est la même chose que la sécurité physique finalement. Hein. On peut complètement comparer ça. Si l'ordinateur, ça va être la maison, l'infrastructure réseau, c'est les routes, c'est exactement la même chose. Et le besoin est le même, c'est-à-dire que l'objectif de la sécurité, c'est vraiment d'empêcher que n'importe qui vienne fouiller dans votre maison sans que vous l'ayez autorisé au préalable, ou que un colis que vous voulez faire livrer soit détourné au passage ou qu'une partie soit prélevée par exemple.
Et question très naïf, mais ça représente quelle proportion? Est-ce que tu as deux, trois chiffres là-dessus? Est-ce que tu peux nous aider à nous représenter? Parce que je peux pas dire que je sais rien malheureusement sur ce sujet. Mais si je savais rien sur ce sujet, je pourrais me dire c'est minoritaire. Personne, en vrai, il n'y a pas tant que ça d'attaque informatique. On va pas tant que ça chercher dans le téléphone des autres.
Le coût dans le monde du cybercrime, en fait, en 2021, j'ai le chiffre pour 2021, c'était 6 000 milliards de dollars. On estimait à l'époque, et donc j'ai pas vu les chiffres, mais de ce que je sais, ça empire plutôt par rapport aux prévisions, mais on estimait qu'en 2025, on serait à plus de 10 000 milliards de dollars de coûts pour ces menaces informatiques. Aujourd'hui, les attaques par ransomware, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais les attaques qui vont chercher à, en fait, à vous faire chanter, et donc à chiffrer toutes vos données, à les rendre inaccessibles, et à vous demander de payer en échange d'une restauration de ces données, il cesse d'augmenter pour les entreprises. Le coût moyen entre 2022 et 2023 d'une attaque par ransomware, il a doublé en fait. C'est-à-dire que la rançon qui est demandée aux entreprises a doublé. Derrière l'impact de ces attaques, il est énorme. Il est énorme à titre individuel. Effectivement, il y a beaucoup d'attaques à titre individuel. On a beaucoup, alors là, on a beaucoup d'attaques, on va dire d'ingénierie sociale, des choses comme ça. Effectivement, au niveau individuel, mais le risque, effectivement, au niveau individuel, c'est la perte de ses données, c'est la perte de son argent. À partir du moment où on accède à votre système, à vos informations, on peut accéder à votre compte en banque, par exemple, où on peut vous demander de l'argent, effectivement, en échange de vos données. Mais il y a un coût, effectivement, où il y a un risque. Il y a un risque qui est effectivement très fort au niveau des entreprises également. Et donc là, je dirais que c'est dramatique, hein. Toutes les entreprises y font face. J'ai vu un chiffre là récemment qui disait qu'en gros 88% des entreprises en 2023 avaient été concernées par des attaques informatiques. Et en gros, la question, c'est aujourd'hui, malheureusement, c'est pas de savoir si vous allez y faire face à un moment donné, c'est quand en fait, et donc il faut vraiment s'armer pour être le mieux préparé le jour où ça arrive, et puis pour avoir tout ce qu'il faut pour le mieux résister à ces attaques en fait.
Et donc ça, c'est les attaques de masse, ou alors c'est les attaques très ciblées sur je sais pas, je veux les datas de Total, j'attaque Total.
On a vraiment les deux. On a des gangs. Hein. Enfin, c'est vraiment aujourd'hui, on est vraiment sur un crime organisé. On est sur des mafias. Souvent dans ces cas-là, on va être sur de l'opportunisme. En fait, on va dire, ils jettent des grands filets. Mettons, on a une vulnérabilité qui devient connue d'une personne à un moment donné, qui va être utilisée. Et donc, ils vont scanner tout le réseau finalement pour voir quelles sont les cibles potentielles. Ou alors, ils vont tendre des pièges, des hameçons, hein, des techniques d'hameçonnage en gros. Et puis ils vont voir un petit peu qui va répondre. Imaginez que si vous envoyez, je sais pas, un mail d'hameçonnage, un mail de phishing à 30 millions de personnes, et que vous avez que 1% des personnes qui se font prendre au piège, eh ben c'est déjà énorme en fait pour un attaquant, ça suffit finalement. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est ce qui se passe, on va dire, c'est ce dont on entend le plus parler, c'est ce qui est le plus courant. Après, les attaques ciblées, les attaques individuelles, ça existe aussi, et c'est effectivement fonction finalement de l'enjeu. C'est-à-dire que plus l'enjeu est fort, plus vous êtes à risque d'avoir une attaque vraiment qui va vous cibler vous. Pour l'attaquant, ça va être une démarche différente, parce que dans un cas, on va dire, il utilise ses outils, les moyens qu'il a à sa disposition, et il voit qui mord à l'hameçon, hein, c'est vraiment ça. Dans l'autre cas, il cible spécifiquement une entité, et donc il va faire une évaluation de la surface d'attaque, et il va regarder un petit peu tout ce dont elle dispose, et il va voir quelles sont les faiblesses et comment il va pouvoir rentrer sur le système.
Et donc, par exemple, OVH, qui est un système de cloud, qui est passé d'ailleurs sur ce podcast, lors de sa création, une faille qui commence à être connue. Donc là, il y a un gang qui dit, tiens, je vais aller voir tous les clients d'OVH et je vais les attaquer sur cette faille-ci, et je vais voir ceux qui mordent, ceux qui mordent pas.
C'est exactement ça. Vous avez souvent, alors on parle dans les vulnérabilités, quand elles sont connues, on parle une vulnérabilité non connue qui a été trouvée par quelqu'un qui est non connu. On va parler de zéro day. Les zéro day, c'est des vulnérabilités qui se monnaient souvent assez cher sur le marché noir. Et après, une fois qu'elle devient connue, on parle de one day. Une vulnérabilité one day, elle est connue, mais c'est pas pour ça qu'elle est corrigée. Et en général, elle peut être corrigée au niveau de l'éditeur logiciel qui développe effectivement la solution, par exemple OVH, mais c'est pas pour ça que tous les clients de ce logiciel ont bien déployé les mises à jour en temps et en heure. Et donc, il y a en général une fenêtre pendant ce temps-là où la vulnérabilité est exploitable et est exploitée par les attaquants. Et donc, on va trouver généralement des sites, par exemple, il y a des sites comme Shodan qui font des scans de masse d'Internet et qui caractérisent un petit peu tout ce qui est accessible depuis Internet. Et donc, via ces sites-là, on va pouvoir pouvoir typiquement voir si une vulnérabilité, quelles sont les cibles qui peuvent être visées par une vulnérabilité de ce type-là, par exemple. Ou alors, les attaquants vont faire des scans eux-mêmes via des réseaux de machines qui contrôlent et voir un petit peu, effectivement, ce qui reste vulnérable.
Et du coup, avant d'aller en profondeur dans ce que vous faites, vous, et qu'est-ce que c'est la cybersécurité, on va aller plutôt sur la cyberattaque. Quelles sont les différentes menaces, du coup, qui peuvent se balader comme ça sur Internet, j'allais dire sur le web, c'est vraiment quelqu'un de vieux.
Bon, ben, je vais. Les différents types de cyberattaques, on va dire le premier niveau, la première chose qui vient en tête, c'est les attaques par déni de service. Les attaques par déni de service, c'est un petit peu une manifestation devant la préfecture qui empêche les gens de rentrer, typiquement. C'est-à-dire qu'on va chercher à empêcher les utilisateurs classiques d'un service d'y accéder. Quand je dis utilisateurs, ça peut être des utilisateurs physiques, hein, des vrais, par exemple, des clients d'une banque. On va noyer en fait une banque sous des tas de fausses requêtes en fait, en la sollicitant énormément pour demander plein de choses au niveau du site web pour empêcher les vrais utilisateurs légitimes d'y accéder et de pouvoir utiliser le service. Donc ça peut être effectivement des clients physiques, mais ça peut être des fois des automates qui fonctionnent entre différentes solutions logicielles, et on va chercher comme ça à couper une communication entre ces différents automates pour atteindre un effet recherché. Ça peut être des communications entre un système de sécurité qui monitore les choses, par exemple, et un système légitime, et on va comme ça, on parle de flouder en anglais souvent, on va noyer le service sous un tas de requêtes pour, en gros, qui s'écroule et qui ne fonctionne plus, en fait. Et donc, pour ça, pour faire tout un tas de requêtes, il y a des tas de techniques, effectivement, qui existent, mais souvent, en fait, les fameuses mafias dont on parlait tout à l'heure, on cultive, on va dire, des tas de machines qu'elles maîtrisent, qu'elles ont à disposition et qu'elles vont pouvoir utiliser, qu'elles vont en général louer ou vendre en temps d'utilisation, finalement, pour aller cibler précisément une entité qui est une cible à un moment donné. Donc, quand vous avez des milliers ou des millions, tout d'un coup, de machines qui se mettent à communiquer avec une seule entité, bah ça peut vite la faire s'écrouler.
Tu parles de mafias. Après, on va juste revenir sur les différents types. Mais petite digression sur les mafias. C'est qui ces mafias ?
Alors aujourd'hui, s'il y a vraiment, je saurais pas vous dire exactement qui c'est ces mafias. Là, on a un exemple, mais on n'a pas encore les noms des personnes. Le FBI, avec l'aide de pas mal de sociétés, de gouvernements étrangers, dont la France, a démantelé une menace qui s'appelle QuackBot, qui était justement un botnet qui existait depuis pas mal d'années, qui représentait, je sais plus, 170 serveurs et qui avait infecté 700 000 PC l'an dernier. Il vient d'être démantelé et donc on vient de faire tomber tout ça. Ça représentait des machines dans le monde entier. On retrouvait des acteurs un petit peu partout. Donc c'est comme les mafias traditionnelles, ça fonctionne de la même façon, c'est un petit peu en silo avec des spécialités très fortes. Donc vous allez avoir ceux qui développent les réseaux justement d'accès aux botnets, vous allez avoir ceux qui développent les menaces, qui programment en fait des fichiers malveillants et qui vont derrière les revendre à d'autres groupes qui eux vont les utiliser. On est de plus en plus sur des instances as a service en fait, de la même manière que sur l'informatique traditionnelle. On rentre de plus en plus dans ce mode-là. On est sur du as a service avec des entités qui se louent les choses, qui se revendent les choses. C'est pas rare qu'une fois qu'une attaque a été effectuée par un groupe avec un premier effet recherché, par exemple vol d'informations, vol de espionnage industriel, quand l'accès n'est plus nécessaire pour un groupe donné, eh ben il va être revendu à un autre groupe qui va l'utiliser pour une autre raison, par exemple déployer un ransomware. C'est vraiment des choses aujourd'hui qu'on voit qui se produisent. Ouais.
Et t'as parlé du FBI, les gouvernements y jouent aussi dans cette cour ou pas ?
Alors les gouvernements ont malheureusement font beaucoup effectivement d'espionnage industriel, enfin d'espionnage oui effectivement dans le monde. On a des équipes spécialisées effectivement dans l'attaque informatique dans à peu près tous les pays du monde. La France a communiqué sur sa politique dans son livre blanc sur sa politique offensive en fait en termes de cybersécurité. Un exemple là que j'ai en tête qui a beaucoup marqué les esprits, c'était en 2000. Alors j'ai plus la date exacte, peut-être 2010. En tout cas, un malware qui a fait beaucoup parler, qui s'appelle Stuxnet, qui a été utilisé pour ralentir le programme d'enrichissement nucléaire iranien et qui a été développé, d'après ce qu'on sait maintenant, conjointement par les Américains et les Israéliens. Et donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe qui a été développé, qui a dû coûter extrêmement cher à développer, mais qui avait pour objectif effectivement d'aller perturber le fonctionnement des automates qui faisaient tourner les centrifugeuses pour détruire les centrifugeuses. Et ça a plutôt fonctionné effectivement.
Et donc aujourd'hui, on n'envoie plus de bombes sur des usines ou sur des ponts comme dire en guerre froide ou.
Malheureusement, ce qu'on voit quand même en Ukraine aujourd'hui, c'est que les deux existent. C'est-à-dire que on a bien vu en même temps que, enfin, ça n'a pas empêché effectivement les Russes d'attaquer l'Ukraine, même si en parallèle, il y avait effectivement beaucoup de cyberattaques sur les systèmes ukrainiens. Mais c'est utilisé conjointement, on va dire.
Ok. Pour revenir un peu aux différents types de menaces, tu nous as parlé de du fait de bloquer un site, un accès, etc. contre une rançon. Tu nous as aussi un petit peu parlé de l'hameçonnage,
oui.
Donc le fait d'envoyer des mails de masse, etc. Est-ce qu'il y a d'autres attaques?
Oui, alors déjà, si je reviens un tout petit peu sur l'hameçonnage, je trouve ça intéressant d'en parler parce qu'en fait, on le retrouve partout. Enfin, l'hameçonnage ou le... Ah, j'ai perdu le terme. L'ingénierie sociale, voilà. L'ingénierie sociale, finalement, le hameçonnage, c'est une forme d'ingénierie sociale. Il y a un des premiers hackers dont on a pu parler, c'était Kevin Mitnick, qui est malheureusement décédé récemment, qu'on considère un petit peu comme le père des hackers, et voilà, et qui a vraiment théorisé énormément l'ingénierie sociale. Et lui disait, par exemple, qu'il a effectué beaucoup de piratage au cours de sa première partie de carrière, on va dire. Et il affirmait qu'il n'avait jamais eu à utiliser des outils informatiques pour pénétrer dans les systèmes. Il a toujours utilisé, alors lui, il appelait ça la psychologie, les techniques de psychologie, mais effectivement, c'est ça, c'est ce mot veut pas venir aujourd'hui, mais l'ingénierie sociale, effectivement, pour parvenir à ses fins. Et donc ça, c'est très utilisé. C'est très utilisé dans les attaques individuelles, quand vous faites pirater votre compte en banque ou des choses comme ça, avec des techniques parfois très avancées. Et le phishing, c'est une, on va dire, un dérivé, finalement, de ces attaques par ingénierie sociale, où on va en plus utiliser, donc, des faux mails, des faux sites web, où on va vous inciter à aller sur des faux sites web pour parvenir, effectivement, à des fins, souvent, effectivement, pour obtenir un premier accès. Et donc, en fait, on parlait des différentes menaces, des différentes techniques. En fait, quand on a une attaque informatique, en général, on a tout un ensemble d'étapes. Ça correspond à tout un ensemble d'étapes. On va parler de la kill chain. Et la kill chain, elle va se passer en plusieurs étapes. La première, ça va être le ciblage. On en parlait un petit peu. C'est par là un petit peu qu'on a commencé la conversation. Quand on parlait effectivement d'une vulnérabilité, comment on allait l'exploiter. Donc le ciblage, il va y avoir plusieurs façons potentiellement de faire du ciblage. Ça peut être ce qu'on disait, avoir une vulnérabilité et voir qui répond, faire du scan de masse, voir un petit peu où sont les failles, mais ça peut être le phishing, justement, peut être utilisé pour ces étapes de ciblage également, ou encore l'ingénierie sociale. Après cette phase de ciblage, vous allez avoir l'infection. Donc l'infection, là, c'est pareil. Des fois, il n'y a pas eu besoin de ciblage et on arrive où les deux se passent en même temps. Mais l'infection, ça va être le moment, effectivement, où on prend pied sur un système. Et donc là, en général, le moment de l'infection, on va exploiter une vulnérabilité, donc informatique ou humaine en général, effectivement, pour mettre quelque chose, déposer quelque chose dans le système qu'on vise, qui va nous permettre ensuite de prendre la main et de venir télécharger les étapes suivantes de l'attaque. Et donc là, on a pareil des malwares, on a des solutions, des malwares, des virus qui vont être spécialisés pour ces étages d'infection. On a par exemple un malware très assez connu qui s'appelle Emotet, qu'on distribue en général dans des documents malveillant et qui va servir effectivement à cet étage d'infection. Et donc ce premier étage, il va être effectivement l'étape qui va permettre ensuite d'aller télécharger l'étape d'après de pérennisation, de propagation, où là on va venir télécharger des outils un petit peu plus développés sur le système. On va parler de RAT, des remote access tools typiquement, ou des loaders qui vont être dans des types de malware, des types de fichiers malveillants qui vont effectivement viser à se déployer un peu plus complètement, à communiquer avec un command and control, donc un serveur distant qui va lui donner les ordres et qui va permettre vraiment de piloter la machine. Et ensuite, à la fin, on va vraiment trouver l'effet recherché, c'est-à-dire l'effet final. Et donc là, il peut être de plein de natures différentes et on va avoir des malwares de plein de natures différentes. On a bien sûr les ransomware dont on parle énormément, qui font le gros de l'actualité parce qu'ils font énormément de dégâts, ils coûtent très cher à l'économie. Mais en fait, c'est aussi dit que c'est la partie visible, on va dire, de la menace. À côté de ça, vous allez avoir donc des ransomware, vous allez avoir tout ce qui va servir à faire de l'espionnage industriel, du vol de données. Des keyloggers par exemple, des choses comme ça qui vont chercher à vous voler vos secrets. Vous allez avoir quelque chose qui revient en ce moment un petit peu en puissance. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai vu que ça revenait dans les statistiques et que c'était pas mal présent. C'est tout ce qui est crypto miner. Donc où là, des attaquants vont chercher à déposer, à utiliser vos ressources de calcul en fait gratuitement du coup, et donc vont venir déposer des outils qui vont miner des monnaies type Bitcoin, mais en général c'est plutôt d'autres monnaies, genre Monero, des choses comme ça, pour gagner de l'argent en exploitant vos PC, donc sans dépenser d'électricité finalement. Donc ça, c'est des choses qui étaient très à la mode il y a quelques temps quand les cryptos étaient très hautes. On en voyait un peu moins ces temps-ci, puis là depuis quelques mois, ça reprend, ouais, effectivement. Okay. Donc voilà, c'est le genre d'effet recherché qu'on va avoir. Et donc voilà, donc c'est vraiment les attaques auxquelles on est exposé sur une attaque, on va dire, d'un poste de travail classique. Après, va y avoir les attaques qui vont chercher plus. On va parler de man in the middle, par exemple, où là, on va chercher effectivement à se mettre entre à se mettre entre les connexions pour voler aussi des secrets qui transitent, typiquement voler des informations qui transitent. Ça peut être par exemple attraper les mails qui, je trouve plus le bon terme, mais attraper les mails qui passent sur le réseau pour être capable d'en lire le contenu et récupérer par exemple des mots de passe de cette manière-là.
Ok. Et est-ce qu'on est assuré par rapport à ça? Rien à voir, hein, mais tout à l'heure ça m'a fait penser à ça. On nous disait que ça coûtait assez cher. Est-ce que nos assurances qu'on a tous, responsabilité civile, les assurances qu'on a sur nos boîtes, etc. Est-ce que ça couvre ça?
Par défaut, en général, non. Alors, à titre individuel, c'est pas ce que je regarde le plus parce que je suis un peu plus confiance à mon hygiène personnelle, on va dire, sur ce sujet. À titre pro, il y a des assurances cyber qui existent. Il faut vraiment contracter ces assurances pour en bénéficier. Et alors là, suivant le personnel à qui vous demandez, bon, moi, ce que je vais vous dire, hein, c'est que les retours d'expérience que j'ai pu avoir, c'est que c'est très difficile de se faire rembourser parce qu'en fait ça coûte tellement cher que c'est difficile à assurer concrètement, voilà. Et donc les assurances qui couvrent le risque cyber, elles vont en général mettre des contraintes assez fortes déjà maintenant et de plus en plus fortes sur les obligations de sécurité, et elles ont envie de fait trouver des failles le jour où il faudra vraiment rembourser quelque chose. Un exemple que j'ai en tête, parce que c'est un exemple qui ça m'avait pas mal intéressé, ça concernait des blocage de chaîne de production. Je crois que c'était fin 2019, on avait Lee Charmel, donc une entreprise de lingerie qui a été victime d'une cyberattaque. C'est quelque chose qui m'a marqué parce que naturellement, comme ça, c'est une entreprise qui est plus orientée dans la couture, des choses comme ça. C'est typiquement le genre de cible où, par défaut, je pense que les gérants vont se dire, on n'est pas une cible pour d'attaque informatique, on n'est pas dans l'informatique, on n'est pas concerné. Alors qu'en fait, si, tout le monde est concerné. Et donc, n'importe quel type d'entreprise, il y a de l'informatique partout maintenant dans les entreprises. Et donc typiquement, Lee Charmel a été victime d'un ransomware fin 2019. Ils se sont retrouvés en redressement judiciaire à cause de ça. Je crois qu'ils estimaient le coût de cette attaque à 10 millions d'euros pour eux, en fait. Parce qu'il y a la rançon, mais bon, déjà, je disais, je vais revenir là-dessus, mais c'est payer une rançon, c'est encourager le crime, très clairement. Donc voilà. Et on n'a jamais tellement de garanties qu'on va retrouver les données. Et puis en général, il faut vraiment tout reconstruire derrière, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, l'attaquant qui a déposé le ransomware, il s'est laissé un petit accès dans un coin pour le revendre à un autre.
Son truc,
voilà,
ouais.
Exactement. Et donc c'est très coûteux derrière de reconstruire quelque chose de propre et de repartir à zéro. Et donc ça demande de faire appel à des équipes dédiées pendant un certain temps, de nettoyer vraiment tout le système. C'est long. Donc je me suis un petit peu perdu. Mais oui, on parlait des assurances. Donc effectivement, Lee Charmel du coup avait une assurance cyber. Et ça fait 2 ans, je crois, qu'ils sont. Enfin, je sais pas où ils en sont là, mais ils étaient en procès effectivement avec leur assureur.
Voilà. Okay. Ouais. Et tu disais que t'as une hygiène perso assez impeccable là-dessus. Tu vois, je pensais que j'en avais une aussi. Et puis je me suis pas fait attaquer, mais tu sais, en ce moment il y a des routeurs qui se baladent dans Paris, qui se pluguent aux antennes de télécommunication et qui récupèrent les numéros de téléphone et après qui envoient du texto. Et moi, je reçois un mail une fois là de la RATP qui me dit, ouais, votre passe Navigo peut être remboursé suite au blocage de cette ligne. Je crois que je prends la ligne tout le temps. Je me dis, ah, trop bien. Je clique dessus et puis au bout d'un moment, il me demande de mettre mon numéro de carte. Je me dis, strange. Et donc là, j'ai commencé à regarder un peu plus, mais comme quoi ça arrive.
Alors oui, quand je dis j'ai une hygiène personnelle, c'est assez prétentieux déjà effectivement. Et personne n'est à l'abri effectivement. C'est les attaques, elles sont de plus en plus évoluées, surtout par ingénierie sociale. On arrive à vous emmener où on veut. On va jouer sur des tas de facteurs émotionnels et il y a des gens très performants quoi. Mais par contre, je pensais plus à mes données, effectivement. Et donc, je m'assure effectivement que mes données sont vraiment protégées, que j'ai des copies qui sont vraiment inaccessibles.
Tu peux donner 2-3 petits conseils, 2-3 petits tips que t'as. En fait, des trucs tout bêtes. Hein. Ouais. Je vois, par exemple, moi, je mets pas une clé USB dans mon ordinateur.
C'est très effectivement. Non, mais une clé USB, c'est un vecteur d'infection possible. 80% malgré tout des attaques aujourd'hui. Mais les clés USB, ça se fait beaucoup. Hein. Les clés USB, ça se fait beaucoup. Surtout quand on connaît pas. En fait, vous trouvez une clé USB dans la rue, c'est un moyen d'attaquer une entreprise. Il y a eu des attaques comme ça où des gens déversaient des tas de clés USB malveillantes devant le siège de, je sais plus, c'était un grand groupe américain. Je sais plus, c'était Microsoft ou Apple. Ça a fonctionné, quoi. C'était vraiment.
Voilà. Forcément, ça arrive.
Bah oui, dans le lot, il y en a un, il va prendre la clé, il va dire, tiens, il y a quoi là-dedans, ou qui a perdu sa clé, voilà. Et donc, c'est un moyen. Le moyen le plus utilisé, c'est les mails. 80% des attaques aujourd'hui passent par mail. Pour le démarrage. Parce qu'effectivement, on va se faire passer pour quelqu'un de confiance. Si on fait un peu de ciblage, en plus, on va pouvoir regarder, voilà, sur les réseaux sociaux, vos centres d'intérêt, vos machins, vos trucs. On se fait passer pour quelqu'un que vous connaissez, on vous envoie un fichier, on se dit, il va l'ouvrir, c'est sûr. Et bon, voilà, ça 80%, c'est les mails. Après, l'hygiène personnelle, c'est aussi se dire qu'à un moment donné, ça risque d'arriver. C'est-à-dire partir du principe que l'attaque, elle va se faire, qu'à un moment donné, ça va arriver. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place pour avoir un recovery plan, finalement? Qu'est-ce que vous mettez en place pour tout reconstruire si jamais ça doit arriver? Si jamais, à un moment donné, vous êtes un humain, vous êtes faillible, c'est normal. Donc, si jamais, à un moment donné, il y a un truc. Donc, typiquement, en ce qui me concerne, c'est clair que j'ai fait pas mal de voyages dans ma vie, des choses comme ça. C'est mes photos auxquelles je tiens le plus. Et donc, les photos, elles sont conservées sur des disques qui sont complètement déconnectés, qui sont mis ailleurs que dans ma maison. Ça, c'est pas pour des questions de sécurité informatique, mais c'est si jamais j'ai un incendie. Et qui ne verront jamais autre chose, effectivement. Enfin, qui seront jamais connectés à rien. Sauf le jour où, effectivement, j'ai un besoin de restaurer très fort. Sinon, vous avez des solutions de stockage en cloud maintenant. Un stockage à froid qui sont effectivement qui fonctionnent bien. L'idée étant de se dire toujours avoir les données à plusieurs endroits assez différents et en gardant en tête que si vous faites attaquer, faut pouvoir restaurer. C'est pareil, stocker les données chiffrées, c'est toujours mieux si en tout cas vous voulez pas qu'on y accède. Par contre, faut faire attention où on garde la clé, parce qu'il y a des cas où on est victime d'un ransomware et puis là on se rend compte d'un coup que finalement la clé on l'avait que quelques fraîche. Voilà, exactement. Donc c'est le genre de choses auxquelles il faut faire attention. C'est très courant ce genre de choses de perdre sa clé de chiffrement suite à une attaque, par exemple. Enfin, c'est voilà.
Tu me disais que les mails sont l'attaque la plus fréquente. Est-ce que tu as des tips à donner là-dessus?
Toujours vérifier effectivement qu'on est sur. Toujours vérifier que c'est quelqu'un, c'est que c'est quelqu'un qu'on connaît finalement et que ça vous semble être quelque chose de légitime. Faire attention, en fait, toujours se dire, en fait, voilà, partir du principe, il y a un côté. Je suis dans un métier qui me rend parano très clairement. Mais l'idée, c'est ça, c'est de se dire, quand on a un mail, apporter une démarche, on se dit, je suis pas sûr finalement que ce que je lis, ça vient bien de ce que je crois. Et donc toujours avoir une démarche de doute, en fait, finalement. Après, derrière, il y a des solutions. Alors, bon, on en fournit, mais c'est bien de pouvoir vérifier tous les mails, en fait. Quand on ouvre une pièce jointe, faut jamais ouvrir une pièce jointe s'il n'a pas été vérifié au préalable. Donc, soit vérifié sur le chemin parce que vous avez ce qu'il faut pour vérifier les pièces jointes sur le chemin de transmission. Soit quand vous la recevez, si vous avez un doute, vous la mettez sur vous la faites analyser. Ou alors, idéalement, vous l'ouvrez dans un système qui va être unique, une VM dédiée, par exemple, qui va être dédiée à ça. Et au moins, vous savez que si vous ouvrez quelque chose de malveillant, le périmètre d'impact, finalement, il sera limité. Moi, j'utilise un système à titre personnel et professionnel, typiquement, qui s'appelle un système d'exploitation qui s'appelle CubeOS. C'est quelque chose d'un petit peu, c'est pas forcément très simple à utiliser, pour un non-informaticien, je dirais, mais c'est un système qui isole tout. Donc, chaque application, chaque usage tourne dans un environnement fermé. C'est comme si c'était plein de PC différents, finalement, avec des usages spécifiques. Mais ce que vous pouvez faire, sinon, par exemple, c'est avoir toutes vos, quand vous allez sur une banque, par exemple, c'est toujours le faire depuis la même VM qui ne fait que ça et jamais rien d'autre et la dédie à ça, typiquement. CubeOS permet de faire ça de manière un petit peu naturelle et structurelle, on va dire, et pour tous les types d'usages. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose que j'aime bien utiliser et qui assure que finalement, si j'ai un de mes environnements qui est compromis, l'impact est limité, en fait.
Faut aussi rappeler qu'à partir du moment où on nous met la pression sur le temps, c'est jamais bon signe. Et puis rien ne vaut un coup de téléphone.
Exactement. Quand vous avez un doute, un coup de téléphone. Alors surtout en entreprise, les arnaques. Je connais bien ça en ayant créé ma boîte là depuis 4 ans. Les arnaques au président, c'est des trucs très fréquents. Et il y a souvent des tentatives. Ma directrice administrative et financière reçoit souvent des messages de moi qui lui demandent des tas de choses. Et effectivement, il faut toujours vérifier ce genre de choses. Dès qu'il y a quelque chose d'inhabituel, bah oui, prendre le téléphone et vérifier.
Et justement là-dessus, moi aussi je suis assez parano et je vais donner un exemple. Moi je suis parano et en plus je suis entouré de tech et de personnes qui développent des trucs assez incroyables. Donc par exemple là, moi je deal vachement de trucs et des gros contrats sur WhatsApp. Et aujourd'hui, si on attaque mon WhatsApp et qu'avec une IA on arrive à dupliquer ma voix, ce qui est pas très compliqué parce que je fais des podcasts. Si tu récupères mon WhatsApp, bah tu peux récupérer tous mes vocaux. Donc tu peux facilement faire une fausse voix de moi et te demander des trucs. Et du coup, moi, je fais presque de la pédagogie là-dessus. Je dis, appelle-moi, appelle-moi comme on sait jamais. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vois de plus en plus se déployer, les deepfakes, les IA qui imitent ta voix, qui imitent ton visage, etc.
Pour le moment, j'en ai vu un petit peu dans les news, on va dire, mais j'ai pas vu ça de masse, quoi. C'est pas le voilà. Par contre, je pense qu'on a une espèce d'énorme vague qui va déferler sur nous avec ça. Effectivement, ça fait partie des choses qui m'inquiètent le plus. C'est ce qui m'inquiète avec les IA et les progrès qu'on a fait là en termes d'IA générative, c'est que ça devient de plus en plus facile et efficace de faire de l'ingénierie sociale grâce à ça. En fait, on va pouvoir se faire passer pour quelqu'un, aussi bien d'un point de vue de l'image que d'un point de vue du son. On a de la génération de messages. Moi, je vois de plus en plus au niveau marketing. On voit que les messages de marketing de plus en plus sont générés par des IA. Quand on crée une boîte, on est très sollicité par des tas d'acteurs en permanence. Et c'est bon, voilà. Et je trouve que ceux qui sont maintenant générés par la base d'IA sont plutôt bien fichus, on marche plutôt bien en fait. Et donc, si cela marche bien, clairement, les techniques d'attaque qui utiliseront les mêmes technos risquent de très bien marcher également. Donc, effectivement, il y a un vrai risque là-dessus et ça va demander d'être encore plus parano ou de vraiment déployer des outils à chaque fois qui vont bien vérifier les tenants, les aboutissants, effectivement, quand on reçoit un message et voilà.
Et justement, toi, avec ta boîte, tu utilises de l'IA quasiment au quotidien.
Ouais.
T'es assez au fait, je pense, de tout ça. Est-ce que vous développez des solutions qui vont nous permettre de nous protéger de tout ça? Est-ce que vous développez des best practices qui vous permettent justement que ta DAF, si elle reçoit un appel de toi qui est pas toi, elle va savoir que c'est pas toi?
Ouais. Alors, pas aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, nous, on a commencé par ce qu'on maîtrisait, et puis on a créé la boîte sur la base de ce qu'on maîtrisait très bien, c'était l'analyse de code, l'analyse de fichiers. En fait, ça, c'est vraiment ça notre cœur de métier au départ. Et donc, les technologies qu'on a mis au point, elles sont très efficaces pour détecter des fichiers louches, en fait. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on se concentre aujourd'hui. On a une solution qui s'appelle Guinness Malware, qui est vraiment très efficace pour aller scanner tous les fichiers, toutes les pièces jointes, tous les mails que vous recevez, mais plus d'un point de vue code, d'un point de vue structure, pour voir si c'est pas du code malveillant qui pourrait venir infecter un système. Et donc, c'est là qu'on est très bon et on utilise par contre des techniques effectivement de type IA génératif, ces choses-là, mais appliquées à l'analyse de code pour vraiment être capable de détecter du code malveillant. Par contre, effectivement, dans la roadmap, une fois qu'on aura bien avancé, qu'on sera parfaitement satisfait de ce qu'on de toutes les idées qu'on aura bien fait, toutes les idées qu'on a là-dessus pour la suite. Oui, je pense qu'on va aller là-dessus aussi le phishing. Il y a d'autres boîtes aujourd'hui qui travaillent là-dessus, donc on va être plus sur l'analyse de texte pour détecter qu'un texte est louche, et sur la partie effectivement identification d'images générées par IA typiquement. Ouais, ça c'est un vrai sujet. Nous actuellement, on travaille pas là-dessus.
Et t'irais justement sur le marché du phishing, ou alors tu ferais un partenariat avec une boîte qui fait ça?
Aujourd'hui, sur le phishing, on est juste à l'état de l'art dans notre solution, effectivement. Et on part du principe, effectivement, qu'on va faire confiance à d'autres acteurs pour aller là-dessus, notamment au niveau mail. On verra dans l'avenir, après, où on va vraiment sur le phishing.
C'est un secteur qui va tellement vite.
Exactement, ça reste un sujet.
Être expert sur sa verticale plus que faire tout, quoi.
Oui, exactement. Exactement. Aujourd'hui, on a quand même une équipe de 9 personnes dédiées sur la partie intelligence artificielle pure. C'est vraiment que là-dessus, pour mettre au point, effectivement, nos meilleurs outils de détection de fichiers malveillants. Rien que ça, c'est déjà un problème effectivement extrêmement complexe, savoir si un fichier est malveillant ou sain de manière certaine. Et la grosse difficulté, c'est qu'il faut à la fois être très bon pour détecter qu'un fichier est malveillant, mais il faut être aussi très bon pour ne pas dire qu'un fichier sain est malveillant. Parce que si vous faites ça, vous faites crouler l'entreprise et les responsables sécurité de l'entreprise sous les faux positifs à traiter, en fait. Et finalement, ça fait qu'elle est plus capable de traiter les vraies menaces. Donc c'est pas bien non plus, en fait.
Ouais. Ok. Pour revenir du coup aux différents types de menaces, on n'a pas parlé des malwares, je crois. Si?
On a parlé un petit peu sur la forme des différents types qui existent, mais c'est vrai qu'on peut.
C'est les. Pour moi, c'est le premier truc que j'ai appris en cybersécurité il y a 15 ans. 15 ans. Je tombais très tôt dedans quand même. sur les malwares, est-ce qu'aujourd'hui c'est aussi répandu qu'avant?
Oui, complètement. C'est-à-dire, le malware, c'est toujours un moment, quand je vous parlais quand je parlais des différentes étapes de la kill chain, il y a toujours dans ces étapes, en général, des malwares qui sont utilisés, en fait. Le loader qui va arriver, qui va servir à venir télécharger d'autres informations, c'est un malware, en fait. C'est un fichier malveillant qui a un effet final malveillant. Le ransomware, c'est une forme de malware également. Effectivement, le changement maintenant, c'est qu'on est de plus en plus. Avant, on avait des malwares, on va dire généralement spécialisés, c'est-à-dire qu'on allait avoir le ver qui visait à se propager et à fournir accès à une ferme de serveurs pour faire ce qu'on voulait faire. On allait avoir le virus classique qui servait. Alors ça existe de moins en moins maintenant parce que il y a une logique économique maintenant chez les acteurs malveillants. Mais c'est vrai quand j'étais un peu plus jeune, il y avait des virus qui servaient juste à détruire les choses sans raison, quoi, que des gens avaient développé, je vais dire pour le challenge, je pense, et qu'il n'y avait pas d'autre raison d'être que celle-là. Ça, c'est vrai qu'on n'en voit plus trop maintenant. Mais vous allez avoir, voilà, je parlais des ransomware, vous allez avoir les keyloggers qui vont chercher effectivement à capturer ce que vous tapez au clavier, ou des fois prendre des photos de vous localiser, des choses comme ça. Les RAT, Remote Access Tool, qui vont vraiment vous fournir, qui permettent vraiment de prendre le contrôle de votre machine et de faire tout ce que vous pourriez faire, mais à distance, pour l'attaquant. Donc voilà le genre de les chevaux de Troie, voilà, c'est voilà. Souvent, si on prend une famille par exemple comme Logbit, qui est un ransomware aujourd'hui, Logbit ça a démarré en 2019. C'est le seul, je crois, ransomware qui est encore en activité aujourd'hui, qui existait déjà en 2019. Il a eu plusieurs noms, on a parlé d'ABCD. Il a vraiment une logique très, j'allais dire, très commerciale, avec différentes versions de son logiciel régulièrement mis à jour. Après, on a d'autres logiciels. Je recherchais le nom, Quackbot, typiquement. Quackbot, c'était un loader qui arrivait en 2008. Mais en 2008, c'était un cheval de Troie qui servait à destination bancaire, en fait. Il servait à voler des secrets bancaires. Et donc, Quackbot, il vient juste d'être démantelé. Mais c'était une ferme de loader qui était louée, qui était vendue pour fournir des accès à des ensembles de machines et pour derrière aller déployer, typiquement des ransomware.
Quand tu nous racontes tout ça, ça me faisait penser à une. Oui, voilà, c'est ça dont ça me faisait penser. Dans la newsletter on envoie tous les dimanches, une newsletter qui décortique l'actualité, et j'ai parlé à un moment d'une nouvelle IA qui arrive à lire ce que tu écris sur ton ordinateur à partir du moment où ton micro est activé. Est-ce que tu as vu ça passer? Et est-ce que c'est quelque chose qui est une vraie menace ou pas? Parce que du coup, par exemple, ce que ça disait, c'est que on peut arriver à pirater ton Google Meet ou whatever. Et comme ça, quand tu fais une réunion, par exemple, on sait tout ce que tu écris.
Alors, ça fait longtemps qu'existent les attaques qu'on dit par canaux cachés. Historiquement, c'est des attaques effectivement qui coûtent plutôt cher, mais qui peuvent être menées par des acteurs étatiques, par exemple, ou autres, où on va utiliser effectivement les signaux faibles. Donc, les signaux faibles, ça peut être la consommation d'électricité, par exemple, de votre PC. Ça peut être effectivement le son qu'il émet quand on tape, pour venir effectivement trouver les secrets, trouver ce qui se passe, comprendre l'actualité d'un PC. À l'époque, avec les écrans cathodiques, par exemple, c'était très facile à distance avec une antenne de reproduire ce qui était visible à l'écran, parce que l'écran cathodique émettait beaucoup de rayonnement électromagnétique, et donc à distance on pouvait très facilement avec une antenne reproduire ce qui se passait sur l'écran et savoir exactement ce qui s'affichait à l'écran d'une personne. C'est moins facile avec les écrans modernes, mais c'est toujours faisable en fait. Et le système dont on parle là, qui va enregistrer les frappes clavier pour détecter effectivement ce qui est tapé au clavier, c'est des choses qui sont complètement possibles. C'est des vrais risques. Je pense qu'on est sur des menaces qui restent des menaces, on va dire, assez avancé, donc dans des cas de ciblage fort, on va dire, ouais, ça va pas être le,
c'est pas de la masse.
Ça va pas être le truc qui va être utilisé, sur le grand public comme ça, je pense. Aujourd'hui, c'est plus simple, malheureusement, hein, je pense, de d'aller infecter votre téléphone mobile ou sur lequel il y a tout, sur lequel on va pouvoir vous mettre sur écoute, on va pouvoir avoir la position, la localisation, on va pouvoir récupérer plein de secrets. Ça va être plus simple en général d'aller prendre pied sur ces systèmes-là, comment s'appellent ces trucs-là
les enceintes.
Les Alexa, les choses comme ça.
Google Home, Apple, je sais pas comment.
Voilà, qui sont finalement des micros que vous mettez chez vous. Enfin, c'est clairement ça. Et qui sont connectés à Internet. Donc, par défaut, c'est une cible potentielle.
Et ça, c'est facile à attaquer.
Alors, ça peut l'être. Il y a toujours des moments. Enfin, voilà, il y a des vulnérabilités qui peuvent être découvertes, des vulnérabilités qui sont connues. Et à partir du moment où il y a une vulnérabilité qui est trouvée, bah, ça veut dire qu'on peut l'attaquer. C'est un système informatique comme un autre. Donc, il est vulnérable comme les autres. En fait.
Après, je vais te parler de mon iPhone. Mais juste d'abord, est-ce que la cybersécurité, ça existe? Est-ce que la sécurité informatique, ça existe?
Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par ça existe? Bien sûr que la sécurité informatique, ça existe.
Est-ce que
comme
c'est
la
possible d'être
100%
sécure?
Alors, non, c'est pas vraiment possible d'être 100% sécure. En fait, Je dirais que la sécurité informatique, c'est comme la sécurité physique, en fait. C'est le rapport de force entre les moyens qu'un attaquant est prêt à mettre pour accéder à vos informations, à les faire rechercher, et les moyens que le défenseur est prêt à mettre pour se protéger. Et donc, plus vous mettez de moyens, plus vous augmentez aussi le coût pour l'attaquant. C'est ce qu'on fait, hein. On prétend pas avec Linus Malware, typiquement, l'objectif. C'est très facile aujourd'hui, et ça prend très peu de temps de faire une nouvelle version d'un malware qui va être capable, qui va être efficace et qui va fonctionner pendant plusieurs semaines et qui va faire énormément de dégâts. Le but avec Linus Malware, c'est d'augmenter la difficulté pour les attaquants, et que ce soit beaucoup plus difficile, qu'il y ait beaucoup plus de travail pour faire une nouvelle version d'un malware qui sera non détecté pendant plusieurs semaines. Le but, c'est vraiment d'augmenter ce coût. Mais ça reste toujours possible. À partir du moment où un acteur est déterminé. Je parlais de Stuxnet au début là, de notre discussion. Voilà, Stuxnet, on estime que ça a coûté entre 10 et 50 millions au gouvernement américain pour le concevoir. Vous voyez, quand on est prêt à mettre ce genre d'argent sur la table, il y a de bonnes chances que ce soit par ingénierie sociale, l'humain reste faillible, que ce soit via la découverte de zéro day, enfin qu'on arrive à un effet recherché. Et les zéro day, par définition, c'est des vulnérabilités qui ne sont pas connues. C'est-à-dire, on croit qu'on a un système informatique sécurisé, et puis en fait, il y a des vulnérabilités qui ont peut-être été trouvés par quelqu'un dans le monde, qui ont été vendus en secret ou qui ont été utilisés par la personne qui les a trouvés, et on ne les connaît pas. Donc, par principe, si on ne les connaît pas, on ne peut pas s'en prémunir, en fait. Il y a une entité américaine qui est assez connue, une entreprise américaine qui est connue, bon, pour une éthique un petit peu discutable, et qui achète les vulnérabilités, voilà, qui achète les zéro day. Et donc, elle a une grille tarifaire sur laquelle elle fait beaucoup de pubs pour qui décrit en fonction des types de vulnérabilités l'argent qu'elle est prête à mettre, en fait. Et il y a quelques années, quand j'étais encore moi dans le domaine de la recherche de vulnérabilité pour des questions éthiques, on avait une concurrence, on va dire, quand on voulait recruter ou des choses comme ça, pour des gens qui avaient une éthique un peu moyenne, ils pouvaient aller vendre des vulnérabilités à cette entité Zerodium. À l'époque, les vulnérabilités les plus chères, ça se vendait 100 000 $, je crois, c'était à peu près ça les prix. La dernière fois que j'ai regardé, pour une chaîne d'exploitation complète pour votre téléphone mobile, une remote code execution, quelque chose qui va vraiment vous permettre d'aller prendre la main complètement sur votre mobile, ça va être acheté 2,5 millions par Zerodium. Donc, on sent que la difficulté a augmenté, le coût a augmenté, donc la difficulté a augmenté, mais ça reste possible. On ne sait pas aujourd'hui si Zerodium a acheté des vulnérabilités à ce prix-là et s'il en dispose. S'il en dispose,
Ok. Tu me fais une transition toute faite pour demander est-ce que mon iPhone, il est sécurisé ou pas, sachant que je fais toutes les mises à jour.
Bah ça c'est bien déjà, c'est important de faire toutes les mises à jour.
La veille de leur sortie quasi. Parce que Apple se vend comme étant que iOS, macOS, etc. sont les OS les plus sécurisés en termes de cybersécurité. Est-ce que c'est le cas ou pas?
C'est toujours une question de, j'allais presque dire, c'est une question de religion. Tous les acteurs de téléphonie mobile essayent d'être le plus sécurisé possible. La différence, c'est peut-être qu'effectivement, on est dans un système un peu plus fermé avec Apple qu'avec Android, donc c'est plus difficile d'aller faire, j'allais dire, n'importe quoi, c'est-à-dire d'aller faire d'avoir une activité à risque qui pourrait ouvrir une porte, en fait, finalement, sur un téléphone Apple que sur d'autres. Donc ça joue effectivement peut-être un peu, mais néanmoins, ça reste des cibles et donc ça reste des systèmes sur lesquels on cherche et on trouve des vulnérabilités. Des acteurs font ça, et donc de la même manière, les vulnérabilités, il y en a. sur tous les systèmes. En fait,
mais avec de l'attaque de masse, sans utiliser Pegasus par exemple sur le téléphone de.
On en voit moins, mais on en voit pas tellement non plus aujourd'hui sur les téléphones, sur les Android par exemple. Les attaques de masse, à ce moment-là, elles vont utiliser de l'ingénierie sociale. Et l'ingénierie sociale, vous allez l'avoir aussi bien sur le téléphone Android que sur le téléphone Apple, en fait.
Okay. Et par exemple, activer mon micro de téléphone à distance, c'est pas si compliqué que ça.
C'est difficile ou facile, quand tu vois comment vous voyez les choses sur les deux systèmes, en fait. C'est-à-dire que on ne peut pas garantir, effectivement, qu'à un moment donné, quelqu'un n'ait pas la capacité de le faire. L'idée étant de mettre en place effectivement tous les moyens pour éviter que ça arrive, et notamment les mises à jour. Ça, c'est le plus important et la première chose à faire. Les mises à jour régulières, de quelle sorte? Parce qu'en général, dans une mise à jour, il y a des correctifs de sécurité. Les correctifs de sécurité, dedans, en général, il y a des vulnérabilités qui ont été détectées, qui sont connues. Malgré tout, la difficulté augmente quand même, en permanence. Les systèmes sont de plus en plus sécurisés, avec de plus en plus d'étages entre, j'allais dire. Et alors, si je remonte vraiment à l'histoire, je parlais de Mitnick tout à l'heure, voilà, entre les années 80 et ce qui se passe maintenant, non, ça n'a plus rien à voir, quoi. Ça n'a vraiment plus rien à voir. Et la sécurité, l'exploitation d'une vulnérabilité, on pourra peut-être revenir un peu plus en détail là-dessus, mais une vulnérabilité, pour l'exploiter, ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Les processeurs sont plus sécurisés. Et derrière, je parlais d'environnement fermé tout à l'heure. C'est un peu ce qui se passe. Les navigateurs, par exemple, ce sont des environnements fermés, des sandbox, et on fait tout ce qu'on peut pour que ce soit le plus difficile possible d'en sortir. Après, malgré tout, il y a toujours le génie humain fait qu'il se trouve toujours un moyen. Il y a toujours une autre faille humaine qui permet à un moment de trouver un moyen de rentrer. Les systèmes sont développés par des humains. Et ils sont par nature faillibles. C'est très 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 complexe d'aller faire quelque chose d'infaillible.
Attends. Je me permets d'interrompre ton écoute 5 secondes pour te rappeler de t'abonner et de mettre 5 étoiles à ce podcast sur toutes tes plateformes préférées. C'est reparti.
Donc la meilleure des sécurités pour conserver sa confidentialité, c'est soit les poches anti-ondes pour son téléphone, soit laisser le téléphone en dehors de la pièce quand on fait une réunion.
Oui, et après considérer ça. Je parlais déjà du rapport de force entre ce qu'on met comme défense, voilà. Et donc, en gros, avoir une stratégie de protection adaptée au risque qu'on prend. C'est-à-dire que c'est sûr que si vous appelez Elon Musk, vous savez que vous êtes une cible.
Putain, tu m'as vu la tête. C'est pour ça.
Non, mais voilà, ouais. C'est une cible un peu plus importante que voilà. Donc, c'est en fait savoir quel est le risque, quelle est la valeur des données qu'on protège, en fait.
Ouais.
Et donc, mettre les moyens adaptés en face.
Mmh. C'est bien que tu le rappelles parce que. Souvent, quand je me retrouve à devoir définir la cybersécurité, j'aime bien dire que c'est que le coût qui doit être déboursé pour acquérir l'information est plus élevé que la valeur de l'information elle-même. Du coup, il n'y a pas d'intérêt à avoir l'information.
Voilà, c'est au maximum, il faut, voilà, c'est vraiment l'objectif, ouais.
Du coup, pour les différentes menaces et pour revenir à notre sujet de départ, on a parlé du coup des malwares, on a parlé du phishing et de l'hameçonnage, on a parlé de l'ingénierie sociale. Est-ce qu'on a parlé de l'attaque de déni de service? Je crois qu'on l'a rapidement abordé, mais qu'est-ce que c'est?
Alors, l'attaque par déni de service, c'est ce qu'on disait un petit peu au début, c'est effectivement, on va chercher à noyer vraiment un service de demande de connexion, mais voilà, qui cherche juste à polluer, en fait. On va chercher vraiment à inonder le service de demandes non légitimes, inutiles, pour empêcher les utilisateurs légitimes d'accéder au service.
Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres grands types de menaces ou pas forcément?
Je pense qu'on a fait un bon tour, là, effectivement. On a parlé rapidement de l'ingénierie sociale dans les différentes étapes, effectivement. Oui, je pense qu'on en a effectivement bien parlé. Ça reste souvent le moyen d'entrée le plus efficace.
Voilà. Et du coup, les principaux enjeux pour les acteurs comme vous qui font de la cybersécurité, c'est quoi? C'est protéger les données sensibles, préserver la confidentialité, garantir peut-être la continuité de l'activité quand c'est une activité économique. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres grands points?
La confidentialité des données, c'est un gros sujet, effectivement. Au-delà de la disponibilité et de la capacité d'accès aux données, c'est vrai que la confidentialité des données, c'est important. De plus en plus, par exemple, les acteurs par ransomware, justement, pour augmenter leur potentiel de gain, ils se contentent pas de chiffrer les données d'une entreprise, ils les volent aussi. Et ils menacent... Il y a deux choses dans les données d'une entreprise. En fait, il y a deux choses qui ont de la valeur, d'une certaine façon. Il y a le savoir-faire. Donc voler le savoir-faire, ça c'est un risque de le revendre à un concurrent ou le voilà, et du coup de perdre son savoir-faire finalement, enfin qui ne devienne plus unique. Mais il y a les données clients, et les données clients, c'est des données qu'on doit protéger, qui sont voilà, qui garantissent quelque part la protection de ces données-là, garantit aussi la réputation d'une entreprise. Et donc souvent les ransomware, les acteurs qui vont déployer les ransomware, ils vont jouer là-dessus. Ils vont piller les données, pas forcément le savoir-faire, mais ils vont piller les données clients, les données, les informations personnelles qui doivent être protégées. On a la RGPD en France typiquement qui insiste beaucoup là-dessus, et ils vont menacer les entreprises, ils vont les faire chanter en disant si vous payez pas, ben on va divulguer toutes ces données clients sur le web, elles deviendront publiques et tout le monde y aura accès. Et donc ça met une pression forte également effectivement aux entreprises, parce que derrière c'est la réputation de l'entreprise qui est directement qui risque d'être directement impactée, avec des impacts encore plus forts quand on parle d'hôpitaux. Les hôpitaux étaient beaucoup la cible d'attaquants. Quand on vole des données médicales et qu'elles se retrouvent sur le web, bon bah c'est pas très sympa, on va dire. Voilà.
Quelle place joue le RGPD là-dedans?
Alors le RGPD, c'est légèrement différent, mais c'est vrai que c'est un sujet dont on n'a pas parlé aujourd'hui. On a parlé des attaquants, on n'a pas parlé des gens qui protègent. Et finalement, la protection des données, les données en fait, c'est un enjeu très fort de individuel, c'est un enjeu très fort d'entreprise, mais c'est un enjeu finalement de souveraineté également. C'est-à-dire que l'accès aux données, l'accès aux données, c'est un accès à la richesse finalement. Ces données, la tentation est forte de vouloir les monnayer. Et donc la RGPD, elle est un petit peu là pour aussi empêcher. Alors elle est là pour s'assurer effectivement que les données sont conservées dans de manière raisonnable, raisonnée, et qu'on va pas stocker tout et n'importe quoi. Mais c'est aussi pour s'assurer que on ne va pas monnayer n'importe comment les données auxquelles une entreprise a accès. Et ça pourrait être mon cas par exemple le cas de Glimpse. On déploie des solutions de sécurité. Les acteurs qui déploient des solutions de sécurité par défaut. Le videur d'une boîte, c'est le mieux placé pour faire rentrer quelqu'un dans la boîte. C'est la même chose pour les solutions de sécurité informatique. Et donc, si vous n'utilisez que des solutions étrangères, d'un pays étranger, le pays en question, finalement, a accès quelque part, a les moyens d'avoir accès à vos données. Donc, c'est un vrai enjeu de souveraineté. Et l'autre effet, c'est que ça peut être vendu pour des simples questions monétaires. Un bon exemple de business model orienté là-dessus, c'est VirusTotal. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez. C'est une solution qui au demeurant, est assez intéressante, qui est fournie par Google. Ça a été racheté par Google, en fait. C'est un service en ligne où quand vous pouvez soumettre un fichier, et Google va vous dire gratuitement, il va passer un certain nombre d'antivirus classiques dessus, il va vous dire, il y a X antivirus sur 50 qui ont trouvé que ce fichier était malveillant. Donc ça va vous permettre de savoir très rapidement si un fichier est bienveillant ou malveillant. Et donc VirusTotal, ça existe depuis quelques années.
Et ça, on peut le déployer automatiquement.
C'est un service en ligne, donc en fait, okay. Vous y avez accès.
On peut pas le prendre et le plugger à sa boîte mail.
Alors.
Et puis après, les data, elles vont chez Google. Quoi.
Voilà, c'est ça le hic. C'est-à-dire que ça doit être possible, je sais plus bien de l'étendue du service, mais en tout cas, voilà. Voilà.
On peut toujours automatiser une API.
Mais le problème là, derrière ça, c'est qu'effectivement, le fichier, vous le donnez à Google. Et Google, c'est comme ça, parce que le service est gratuit. Mais derrière, il y a quand même une offre payante autour de VirusTotal. Et l'offre payante, c'est l'accès aux données. C'est-à-dire que tous les fichiers qui sont soumis par tous les utilisateurs dans le monde, et il y en a beaucoup, eh ben, on peut s'abonner, on peut acheter l'accès au flux de fichiers, en fait. Et, donc ça, c'est revendu derrière, et c'est revendu à des abonnements qui sont relativement chers. Donc en fait, quand vous soumettez votre fichier, imaginez, je sais pas, et c'est pas forcément une mauvaise pratique, mais c'est dommage, il faudrait pas le faire avec VirusTotal. Vous recevez, voilà, vous êtes à la compta, vous recevez le nouveau business model qui vous a été fourni par votre collègue, et vous vous dites, bon, on est à distance, télétravail, je vais le mettre sur VirusTotal pour vérifier qu'il est légitime.
Et hop, revendu au concurrent.
Alors voilà, en fait, il devient accessible à tous les gens qui ont un abonnement VirusTotal. Et il y a peut-être votre concurrent dans le lot, effectivement.
Et t'avais prévu de racheter une boîte, et puis du coup, hop, ton concurrent se positionne avant, fait un prix un tout petit peu au-dessus, et hop, c'est mieux, des conditions un petit peu mieux sur le burn-out, et hop.
Voilà. Et donc clairement, nous, la façon dont on a conçu Glimpse et donc créé, on fournit ce genre de service en fait d'analyse de fichiers. Mais par contre, nous, les fichiers des clients sont ceux des clients. et rien d'autre. Et donc, on les utilise pas même pour améliorer nos solutions. On utilise d'autres fichiers pour améliorer nos solutions, pour faire des entraînements en intelligence artificielle. Mais les données des clients sont les données des clients.
Et donc, tu conseillerais à n'importe qui de plutôt prendre une solution payante qu'une solution gratuite sur la cybersécurité, d'une, compte tenu des enjeux, et de deux, dans une logique économique, de toute façon, il y a quelqu'un qui gagne de l'argent au bout d'un moment. Exactement. Donc, si c'est gratuit, c'est que toi le client.
Exactement. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Effectivement, c'est bien ça.
Ah oui, et le produit.
Non, mais ouais. C'est ça. Oui, tout à fait. Et oui, complètement. C'est ce que je conseillerais.
Okay.
C'est oui.
Et c'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est que si tu mets tes
alors,
data.
Alors je coupe parce que entre temps, il y a des solutions open source qui peuvent être intéressantes, qui souvent nécessitent une connaissance peut-être un petit peu plus approfondie, mais il y a des choses qui sont développées par la communauté qui peuvent être aussi intéressantes, notamment si on est un particulier avec des moyens limités. Ça suppose généralement de s'y connaître un petit peu plus, mais les solutions open source peuvent être.
Et par exemple, Avast gratuit. Qui est un gros leader chez le particulier, moi je le vois chez tout le monde quasiment. C'est quoi, c'est que ils revendent les data à côté, c'est que
précisément sur Avast, je connais pas le business model, je sais pas, voilà, je sais que Avast a un modèle, je pense, derrière pour les entreprises, donc ils ont des abonnements payants pour les entreprises, donc c'est peut-être ça qui fait aussi leur business model. Comme je ne connais pas, voilà, j'ai pas, voilà, ce qui est possible, c'est qu'ils utilisent simplement, on va dire, les données des particuliers pour avoir accès à une énorme base de données qui leur permettent de créer leur base de détection finalement. Ça c'est une chose qui est possible. Je saurais pas dire effectivement.
T'as mentionné le fait que si on a un, par exemple c'est le cas de Google, si Google récupère tes data, le gouvernement américain peut aller toquer à la porte de Google, d'Alphabet, et leur dire j'aimerais récupérer les data. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que demain toi, je sais pas qui est en charge de ça, mais est-ce que si demain Elizabeth Borne t'appelle et te dit je veux toutes les data de telle boîte qui est ton client, t'es obligé de lui fournir ou pas?
Le droit français c'est pas le droit américain. Et c'est une grande chance pour les Français. Et donc effectivement non, il y a pas ces mécanismes-là en France.
Mais même officieusement.
Même officieusement, il y a ce qui est légal et ce qui est illégal. Et la RGPD, c'est quelque chose d'assez sérieux. Et donc non, clairement les droits et les données de nos clients et l'Europe et la France ont vraiment, avancé beaucoup là-dessus et mis en place les choses pour respecter justement ces obligations-là. Et c'est une difficulté hein, pour les acteurs américains qui viennent s'installer et qui veulent se déployer en France. Les acteurs du cloud, ont des difficultés avec ça parce qu'effectivement, le respect de la RGPD et des réglementations françaises est difficile à concilier aujourd'hui avec le respect des réglementations américaines. Puisqu'effectivement, aux États-Unis, si vous êtes une entreprise américaine, et que l'État américain vous demande pour une raison X ou Y, l'accès aux données, et c'est assez facile, on va dire, de trouver des raisons d'accéder à des données, vous êtes obligé de les fournir.
Sous peine de liquidation.
À côté de ça, en France, vous n'avez pas le droit de les fournir. Et donc, vous pouvez vite vous retrouver, si vous avez des entités dans les deux, dans le monde, ça peut arriver.
D'intérêt.
Exactement. Ça peut arriver. On est un petit peu frileux. Nous, on s'est installé au Canada. On s'installe pas pour le moment, effectivement, aux États-Unis. Parce que ce genre de règles nous rend un petit peu frileux, effectivement. Après, il faut bien voir, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y avait des documents qui étaient sortis, je crois, au moment de Wikileaks, qui montraient vraiment que la NSA ciblait de manière, automatisée, systématisée, tous les acteurs qui étaient concernés par des appels d'offres, où des entreprises américaines étaient aussi présentes, sur je sais plus quel était le montant, mais c'était pas forcément si élevé que ça. Et puis, c'était il y a déjà quelques années. Donc j'imagine qu'ils ont baissé encore le, voilà.
Ok. Tout à l'heure, tu nous as dit quelque chose d'hyper important que j'ai pas souligné, c'est que la meilleure porte d'entrée pour faire une attaque de cybersécurité, c'est peut-être l'agence de cybersécurité elle-même, de passer par Glimpse pour accéder aux data de vos clients. Ce qui est vrai que c'est dit comme ça, ça semble évident. Qu'est-ce que vous mettez en place pour permettre ça? Et est-ce que aujourd'hui les grands acteurs, ceux qu'on consomme tous, je peux penser à, je sais pas, AWS, OVH, je sais pas, et puis même iCloud ou Glimpse, met en place des moyens suffisants pour éviter ce genre de failles.
Pour ces grands groupes, c'est effectivement des moyens qui sont mis, enfin, qui c'est une préoccupation vraiment. Donc effectivement, ils mettent des moyens là-dessus. Et par contre, il faut faire attention. C'est des fois souvent des offres de sécurité. Enfin, ça a un coût la sécurité. Donc c'est souvent pas, c'est pas forcément. Vous avez pas forcément une sécurité optimale dans les offres de base. Et après, pour prendre l'exemple des mails, typiquement, nous ce qu'on a pu voir en se déployant, puisque GlimpseAlert c'est une solution d'analyse de fichiers. Je ne vais pas aller trop là-dessus, mais donc il va analyser un peu tous les fichiers qui ont transité sur un système informatique. Et donc on peut se plugger typiquement sur un serveur mail et on est en général en troisième en dernier rideau, on se place derrière après que les autres solutions de sécurité classiques soient passées et on arrête des menaces toutes les semaines clairement qui seraient autrement qui auraient quand même été passées. Mais mais ils mettent quand même des moyens importants et puis mais il faut faire très attention au niveau de enfin aux options en fait, aux options. En général la sécurité si on veut avoir une sécurité correcte sur ces systèmes-là, il faut bien penser à prendre les options qui vont bien et c'est pas le même prix. Clairement. En ce qui concerne Glimpse, les moyens qu'on met en œuvre, nous, dans le développement de notre solution, je disais qu'on était parano tout à l'heure, ça vient un peu de notre, voilà, ce qu'on a pu,
notre parcours,
c'est ça.
Donc,
sur nos étapes de développement logiciel, on a fait très attention, on utilise des langages qui sont réputés pour être plus difficiles à, pour trouver des vulnérabilités dedans. On a mis en place des programmes de bug bounty avec une entreprise comme YesWeHack par exemple, voilà pour challenger notre solution. On a demandé en fait à des hackers éthiques finalement. Donc c'est des entreprises qui vont organiser finalement une espèce de compétition où on va encourager des hackers éthiques à venir trouver des vulnérabilités, à venir attaquer nos systèmes en échange de primes si jamais effectivement ils trouvent des choses. Donc ça c'est des programmes qu'on met en place pour challenger en fait nos solutions. En interne c'est des choses qu'on fait aussi. On a des compétences en recherche de vulnérabilité, on les met à profit pour de temps en temps prendre un œil extérieur sur notre système et se dire si on se met dans la peau d'un attaquant, est-ce qu'on trouve des moyens de pénétrer sur nos systèmes? Après, c'est aussi la façon, les procédures. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de ça, mais la sécurité informatique, c'est pas que des outils, c'est aussi des procédures, beaucoup de process, les choses qu'on met en place. Comme la sécurité physique, quand c'est beaucoup de procédures implicites, mais vous faites pas rentrer n'importe qui chez vous. Vous avez une façon de faire où en général, on sonne à la porte, quelqu'un ouvre, on laisse rentrer. Il y a des procédures de la même façon pour la mise en place de la sécurité informatique. Et donc là aussi, on met en place tout un tas de procédures quand on déploie des solutions chez nos clients pour nous assurer effectivement que le risque est nul et proche de zéro. et on a des déploiements aujourd'hui parce qu'on a donc on a un déploiement on a un contrat avec l'ANSSI, on va déployer au niveau des différents ministères une solution type virus total mais du coup qui sera et celle-ci elle est hébergée donc dans du SecNum Cloud également. Donc dans des infras vraiment sécurisées fournies par donc là c'est chez OVH typiquement.
OK. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des process que vous mettez qu'il faudrait mettre en place finalement et que vous mettez en place pour justement protéger au maximum ces data.
Alors oui, il y a la relecture de code bien sûr, il y a les audits de code, il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est la veille sur les vulnérabilités. C'est très important. Régulièrement, on publie des vulnérabilités sur les différents logiciels. C'est très important de faire la veille là-dessus parce que dans un logiciel, on utilise plein de briques externes en fait, des briques open source ou pas. Et donc, il faut s'assurer qu'on trouve pas des vulnérabilités sur ces briques-là pour être capable d'aller appliquer les correctifs au plus vite si ça tombe. Donc ça, c'est une veille à faire parce que sinon, on peut se retrouver avec un composant au fin fond de notre système logiciel qui reste vulnérable pendant x temps sans qu'on s'en soit aperçu. Donc ça, c'est des choses à faire vraiment. Et puis après, donc il y a les côtés, on va dire, blue team et red team. Blue team sur le côté un peu protection et red team va jouer un peu le rôle de l'attaquant pour challenger les systèmes. Et donc ça, c'est aussi important de mettre ce genre de mesures en place et régulièrement d'aller challenger les systèmes.
Est-ce que t'as... On va rentrer dans les solutions pour se protéger au mieux. Et pour ça, j'aimerais aborder avec toi plusieurs points. Déjà, la gestion de l'accès, qui est le truc le plus global, puis après la cryptographie, puis après peut-être le réseau aussi, qui pourrait être intéressant. On a souvent tendance à dire que un mot de passe ne sert à rien parce qu'aujourd'hui c'est assez simple de le craquer, ou alors faut mettre des mots de passe très très longs qui ont aucune logique, où on tape un peu au hasard sur son clavier. Mais le problème c'est que si on fait ça, faut le noter quelque part. Si on le note quelque part, Il y a une faille. Parce que il y a un bout de papier qui traîne, ou alors c'est écrit sur une note, ou je sais pas. Ces cas-là, moi, je pirate ta note et j'accepte tes mots de passe. Et puis souvent, on a tendance à remettre les mêmes mots de passe tout le temps. Je sais pas, t'as peut-être le même mot de passe sur ton Facebook, sur ton Twitter et sur, j'en sais rien, parce que bah tu considères que c'est un peu le même type de truc. Donc au moins, le mot de passe est simple à retenir. Est-ce que là-dessus, t'as des best practices, toi qui es un peu parano justement sur ce sujet-ci, comment tu fais les choses, comment tu vois les choses?
Alors c'est vrai que c'est pas très confortable d'utiliser des mots de passe complètement aléatoires parce qu'on a du mal à les taper, même à les réécrire quand on les lit. Malgré tout, les mots de passe ça sert pas à rien du tout, hein. C'est juste qu'effectivement, c'est vrai que si vous avez un mot de passe de quelques caractères, ça peut être vite craqué. Il y a deux choses derrière, c'est que souvent dans les applications que vous avez au quotidien, on a droit qu'à un certain nombre de tests, quelques tests. Donc dans ce cas-là, le craquer, ça peut être un peu plus compliqué. Ce qu'il faut surtout pas faire, par contre, c'est utiliser des mots de passe que tout le monde va utiliser. J'ai des mots de passe faciles à trouver, des mots, des choses comme ça, parce que peut-être qu'un attaquant pourra essayer que trois mots de passe sur votre site bancaire, par exemple. Par contre, il peut essayer un mot de passe sur potentiellement des millions de clients. Donc si, mettons, votre mot de passe, c'est ABCDEFG, et ben, voilà, celui-là, il va être testé tout de suite, il va être testé sur 10 millions de clients, et si c'est vous qui avez ce mot de passe, bon, ben voilà. Donc ça, c'est le genre de mot de passe voilà, qu'il faut surtout pas faire. Les mots de passe courts, effectivement, c'est pas une bonne chose. Une très bonne pratique en termes de mot de passe, c'est de penser à une phrase un peu longue, si possible avec des chiffres dedans, soit noter cette phrase, donc une suite de mots, ça marche aussi, une suite de mots avec des caractères spéciaux entre les mots, donc ça peut être ça, en mettant des majuscules par exemple au début des mots ou ailleurs quoi, idéalement ailleurs, mais bon, si c'est trop compliqué, déjà c'est pas mal d'avoir une suite de mots, des majuscules, des caractères spéciaux entre les mots, bon voilà, ou alors sinon vraiment une phrase que vous allez pouvoir retenir comme ça, et vous notez la première lettre de chaque mot de la phrase, et puis les caractères spéciaux entre chaque mot, les choses comme ça, vous rajoutez voilà des points d'exclamation, des choses au début éventuellement, enfin voilà. Et donc ça peut vous faire un mot de passe assez complexe que vous arriverez facilement à retenir. Donc ça, c'est une bonne pratique déjà en termes de mot de passe, c'est un bon moyen de générer des mots de passe sûrs, voilà, ça, ou alors des suites de mots, voilà, qui vous font tout de suite des mots de passe assez longs, et donc tout de suite ça aide un petit peu.
Et pourtant,
et après effectivement le stock, alors il y a deux choses. Le principe du moindre privilège, effectivement. Alors bon, déjà, la première chose, c'est effectivement un mot de passe par usage et par site, effectivement. Parce que le mot de passe, c'est un secret qui est en général partagé entre deux personnes, enfin qui est partagé entre au moins deux personnes. Vous et
la plateforme.
La plateforme. La plateforme, si elle fait les choses bien, normalement, elle va pas stocker votre mot de passe en clair. Elle va stocker un condensat, voilà, exactement. On sait pas. En fait, c'est quelle confiance vous avez dans le fait qu'elle fait les choses bien.
Puis même si elle le crypte, si on récupère la crypte,
il y a moyen potentiellement d'aller retrouver et d'aller craquer. Donc effectivement, le mot de passe, il est connu entre deux personnes. Et donc, si à un moment donné, il y a un leak, il y a une fuite, de ce mot de passe, le risque, c'est que non seulement le site où il y a eu la fuite deviennent compromis, votre accès à ce site-là, mais également tous ceux où vous avez déjà utilisé ce mot de passe. Donc c'est un problème. Donc effectivement, un mot de passe par usage. Et donc derrière, pour stocker ces mots de passe, la bonne pratique, c'est quand même d'avoir ce qu'on appelle des keypass. Donc ça va être des logiciels sur lesquels vous allez avoir une clé principale qui vont être, alors là encore, idéalement, dans un endroit, peut-être l'idéal, une VM qui est isolée, qui n'a pas accès à du réseau, qui a accès à rien. Et donc là-dedans, vous avez votre keypass, et donc vous rotez un mot de passe, compliqué, hein, vraiment compliqué celui-là. Et celui-là va vous donner accès à tous vos autres accès, et vous allez voir, par exemple, sur le site de ma banque, c'est ce login, ce mot de passe, sur voilà. Et donc c'est lui qui va gérer.
Mais dans ce cas-là, une fois que j'attaque, je mets tout mon effort pour attaquer ce serveur-ci, cette plateforme-ci, et dans ce cas-là, je récupère des milliards d'identifiants et
alors,
en plus de mots de passe.
L'objectif, c'est que votre keypass, l'endroit où vous stockez ça, ouais, ce soit l'endroit le plus secret et à la limite.
Oui, mais toutes ces plateformes là qui se développent
en cloud.
Ouais.
Ah oui, en cloud, oui, moi je suis pas très fan des keypass en cloud.
Ça a une valeur inestimable pour un pirate en fait.
Ouais.
Finalement autant mettre des milliards sur l'attaque de ce truc, parce que s'il est leader sur son marché, la valeur qui détient est tellement élevé que on peut pas la chiffrer quoi.
Oui, non, de mon point de vue, le keypass c'est pas un truc qui devrait être en cloud. On est d'accord.
Ouais.
Ça devrait être au contraire le plus fermé idéalement.
Et le keypass d'iCloud Il est fermé. Est-ce qu'il alors, est détenu dans ton...
Je suis pas très Apple, alors je connais pas bien le... Okay. Voilà.
Non, mais la ouais. question, je me suis déjà posé la question. Ouais.
Okay. Après, malgré tout, il est préférable, j'allais dire, de faire confiance à un acteur qui se dédie à ça. C'est-à-dire que le service en question, même s'il est dans le cloud machin, normalement, voilà, les mecs ne font que ça et ne font que s'assurer. C'est vraiment le cœur de métier, c'est de s'assurer que la sécurité de ce truc-là est assurée. Et c'est pas autre chose.
Donc s'il a un VPN quand même... à côté, plus encore autre chose... C'est oui, pas le meilleur acteur.
Ou alors, faut pas que ce soit les mêmes équipes, ouais. ça c'est sûr, ouais, effectivement. Mais plutôt que ce que vous allez faire vous sur votre coin de table ou je sais pas, voilà, ça sera toujours moins bien, malheureusement. Voilà que voilà.
Et noter son mot de passe sur un morceau de papier, c'est une bonne ou une mauvaise idée?
Bah, ça dépend du risque que vous encourez. Le morceau de papier, si c'est en entreprise et qu'il est sous le coin de table, effectivement, non, c'est pas une bonne idée. Parce que dans une entreprise, c'est un moulin à vent. Donc le papier, vous allez le trouver. Si le papier, il est dans un coffre. C'est une très bonne idée, en fait, parce que ça veut dire qu'en cas de problème, vous allez peut-être être capable d'aller rechercher votre mot de passe dans le coffre. Et donc, ça, voilà, stocker un mot de passe important, principal dans un coffre, c'est plutôt une bonne idée.
Ok. Tout à l'heure, tu me parlais des applications bancaires, rapidement, sans rentrer en détail. Moi, j'ai cinq banques en cumulé. Et je pense qu'il n'y a pas une de ces banques qui a un mot de passe qui ne comprend pas que des chiffres. Et en plus, qui a, je sais pas, 8 caractères, je crois. 9, ouais, 8 caractères. 8 caractères que des chiffres. Finalement, faire toutes les combinaisons, c'est pas si compliqué que ça.
Alors, c'est vrai, mais à la banque, vous allez pouvoir faire que 3 essais. Effectivement, si c'est par exemple un exemple très récent, on va parler de banque. On a ouvert un compte, on a créé une filiale là, il y a pas longtemps, et donc on a ouvert un compte dans le pays en question. Et donc dans la procédure pour créer les accès, à un moment, on me transmettait un document protégé par un mot de passe, et dans ce document, j'avais vraiment les accès pour me connecter la première fois à tout ça. Mais donc ce document, pour être sûr que quand il était transmis par mail, qu'il puisse pas trop être intercepté, il était protégé par un mot de passe, et le mot de passe, il m'avait été communiqué par un autre chemin. Sauf qu'il était pas bon, le mot de passe. Et c'était un mot de passe, effectivement, il y avait, je crois, 8 caractères, c'était 4 lettres et 4 chiffres, quoi. Et avec le décalage horaire, et j'étais un peu pressé, enfin voilà, j'avais le choix entre attendre le lendemain et obtenir le bon mot de passe, ou effectivement essayer les quelques
codes. Coder un petit logo.
Voilà, bah ça a pris, effectivement, là, ça a pris 10 minutes de trouver le mot de passe du document, parce que je pouvais essayer tout ce que je voulais, vu que j'étais sur mon document, sur mon PC, il n'y avait pas, voilà. Donc effectivement, là, en 10 minutes, j'avais le mot de passe. Par contre, derrière, quand vous vous connectez au site web, bah, c'est vrai que là, vous avez que 3 essais. Donc c'est, voilà, c'est, en général, si quelqu'un accède à votre site web, alors, bon, si vous avez utilisé votre date de naissance ou des choses comme ça, bon bah bien sûr ça
là, t'as
en trois essais,
frérot.
Voilà, c'est voilà, il y a trois ouais. essais, bon bah voilà quoi, c'est le premier qui va être essayé effectivement, et en plus je pense que ça marche dans un pourcentage non négligeable de cas, donc effectivement voilà, bon de plus en plus les sites empêchent d'utiliser ce genre d'information pour quand on crée un mot de passe, mais donc effectivement il y a que 3 essais, donc le risque est limité, et au bout d'un moment en plus en général le service va vous demander de changer le mot de passe quand il y a des règles là-dessus, donc finalement c'est raisonnablement sûr quand même. Le risque est plutôt qu'on chope le mot de passe au moment où vous allez l'entrer, par exemple parce qu'il y a un truc malveillant sur votre navigateur au moment où vous allez sur le site web, ou que vous êtes allé voir votre site web dans une chambre d'hôtel avec un wifi ouvert. Enfin voilà, c'est plus ça le risque, le gros risque, que le fait qu'un attaquant ait pu craquer le mot de passe, parce qu'il a quand même eu très peu de tentatives à faire normalement.
En parlant de wifi ouvert dans une chambre d'hôtel, tu me fais une transition toute faite pour demander un petit peu pour parler un peu de la sécurité des réseaux. Moi, je suis un énorme flippé, tu vois, quand je me connecte jamais à un wifi, ne serait-ce même un wifi privé, mais qui est pas le mien. À partir du moment où il y a plusieurs appareils dessus, tout le temps on partage de connexion. À quel point c'est facile de récupérer de l'info quand t'es sur un wifi privé? Est-ce que les VPN, par exemple, qui nous protège de ça, fonctionne vraiment?
Alors,
comment ça fonctionne et où est-ce qu'on...
Le principe du VPN est bon, effectivement. C'est-à-dire, typiquement, quand on utilise un Wi-Fi qui n'est pas le sien, voilà, qu'on est un réseau invité, finalement. On est invité donc forcément, on voit ce que la personne qui nous invite, voit ce que vous faites, quoi. C'est un peu le principe. L'utilisation d'un VPN, c'est un très bon moyen parce que vous allez créer un tunnel chiffré, effectivement, entre vous et un endroit normalement sécurisé. Donc, idéalement chez vous, ou au siège de votre entreprise, par exemple. Et donc, ensuite, toutes les connexions, elles vont passer, donc, dans cette espèce de tunnel fermé, entre votre PC et le point d'arrivée, donc chez vous, voilà, votre entreprise, et ensuite elles vont sortir normalement et on aura l'impression que ça sort de là. Donc ça, c'est une très bonne pratique d'utiliser des VPN si on le fait bien. Donc là encore, mais c'est une très bonne pratique effectivement. Par contre, donc les VPN que vous hébergez vous-même, que vous avez installé vous-même, bah vous avez la confiance que vous avez en vous, j'allais dire, voilà. Si vous passez par un service, bah la question se pose toujours
du propriétaire du service, voilà. Qu'est-ce qu'il fait avec voilà. Ce service si
je sais qu'il y a des je m'intéresse pas beaucoup lui, beaucoup à ce sujet, j'ai pas beaucoup de temps sur ces sujets-là, mais je sais que voilà, il y a des VPN gratuits, des choses comme ça, je crois qu'ils sont proposés des fois pour sortir voilà. Bon bah là encore, si c'est gratuit, c'est qui est le produit client. Donc voilà, donc
non mais j'arrive pas avec cette expression aujourd'hui.
Donc quel est l'usage, enfin voilà, parce que du coup en fait vous n'êtes plus invité, enfin quelque part vous êtes plus sur le réseau invité de votre chambre d'hôtel, de là où vous êtes sur le moment, mais vous êtes quand même sur le réseau invité de la personne qui vous fournit le VPN en fait. Donc c'est lui qui devient le l'espion potentiel.
Les pare-feux, les firewalls, qu'est-ce que c'est? Et à quoi ça sert? Je crois que j'en ai un ou deux sur mon ordi, je sais même pas.
Les pare-feux, ils vont viser à maîtriser la surface d'attaque. Donc la surface d'attaque sur un PC, voilà, vous avez plein de choses qui tournent, qui sont prévues pour se connecter en réseau ou pas, enfin voilà, et qui servent ou qui servent pas, mais qui, en tout cas, qui sont là. Et donc, il y a peut-être plein de services en ce moment sur votre PC qui sont en train d'attendre qu'on s'y connecte. Le but du pare-feu, ça va être de maîtriser ce qui est accessible vu de l'extérieur. Donc, c'est un mur de feu, ça porte bien son nom, hein. C'est un petit peu comme si vous mettiez une clôture autour de votre maison et vous laissez que quelques accès ouverts. Vous avez le portail, vous avez, voilà, le portillon. Et donc, vous avez bien réfléchi et dimensionné quels sont les accès que vous laissez ouverts et vous les connaissez et vous savez ce que c'est. Et tout ce qui n'est pas ça, bah, vous le fermez. Et donc ça veut dire voilà, maintenant on passe plus par derrière chez moi pour venir, voilà, etc. Si quelqu'un rentre, c'est forcément par un de ces tuyaux là. Donc le but du pare-feu, c'est ça. Il y en a effectivement sur les PC pour éviter qu'il y ait des trucs qui effectivement soient ouverts en attente de connexion alors qu'on n'avait pas prévu. Et il y en a surtout au niveau réseau en général, au niveau de l'entreprise, pour s'assurer effectivement qu'on maîtrise un petit peu, notamment parce que dans une entreprise, bah, il y a à la fois beaucoup de machines, il y a voilà. Donc pour maîtriser un petit peu ce qu'on laisse entrer comme ça, ce qu'on laisse accessible de l'extérieur, voilà. Donc le but, c'est de réduire la surface d'attaque. Donc laisser moins de portes possibles à un attaquant pour qu'il puisse rentrer.
Donc tu mets deux portes, à chaque porte tu mets deux gardes.
Voilà, c'est exactement ça l'idée. Okay. C'est exactement l'idée. Et idéalement, voilà, vous avez le firewall et derrière des moyens, des choses, peut-être des NDR par exemple.
Okay. Des choses. Voilà. Qu'est-ce que c'est des NDR?
Network Detection and Response, ça va être une sonde finalement dans le réseau qui va analyser tout ce qui se passe dans le réseau pour détecter un événement malveillant au niveau vraiment réseau, une entrée malveillante, voilà des choses louches, et permettre d'y répondre, donc isoler une machine par exemple qu'on voit qui a été infectée. Donc le but, ça va être d'éviter effectivement de détecter quelqu'un qui cherche à rentrer de manière malveillante sur un système informatique ou qui cherche à se propager. Et donc aujourd'hui, ça fait partie des solutions voilà qu'on conseille vraiment de déployer en entreprise. On a monté une initiative avec quelques startups françaises qui s'appelle l'Open XDR Platform. Donc XDR, c'est Extended Detection and Response, où le but, c'est vraiment de fournir une solution complète de sécurité qui va vraiment une protection étendue. Et le NDR, donc avec une entreprise qui s'appelle GateWatcher, fait partie de ces solutions de détection étendue qu'on préconise vraiment et qu'on déploie dans l'Open XDR Platform.
Ok. Et ça, faut pas que ça soit sur le cloud. Faut que ça soit hébergé sur ses propres appareils.
Alors le NDR, ça va être dans le réseau, donc plutôt dans le réseau. Ouais. Mais comme il y a beaucoup de choses en cloud potentiellement dans vos services, ça peut être en cloud.
Ok. Parce que du coup, si c'est en cloud, le propriétaire du cloud récupère toutes les infos. Donc il doit être, ou alors faut qu'il soit régi par le RGPD.
Oui, exactement.
Privilégier plutôt un gros acteur du coup.
Plutôt un gros acteur et plutôt effectivement un acteur européen.
Qui dit gros acteur européen dit grosse surveillance européenne sur lui.
Voilà, exactement.
Parce que le petit acteur que personne connaît et qui fait qu'à 0,01% du marché.
Oui, alors je m'inscris en faux un petit peu en tant que petite start-up contre ça. Vous avez des start-up très innovantes qui fournissent des solutions de qualité, mais effectivement ça
Et c'est pas les plus surveillés.
En Europe, il y a un niveau de surveillance.
En Europe, on surveille
après,
tout
il faut
monde.
Voir les règles s'appliquent à tout le monde et vous allez. On va pas laisser faire n'importe quoi.
Oui. Ouais, mais si je prends l'exemple du fisc, par exemple, il va d'abord aller contrôler les grosses fortunes avant d'aller contrôler Madame Michu au fin fond de l'Auvergne.
Oui. Néanmoins, un incident, c'est vite. Un incident. Le fisc qui va contrôler les mauvais payeurs. Et les mauvais payeurs, ils sont aussi vite identifiés. Donc, en général, quand on commence à voir que vous êtes un mauvais payeur, on va vite. Voilà. Et donc, c'est la même chose là, en fait. Hein. Si vous commencez à faire n'importe quoi, on va pas vous laisser. Enfin voilà, on va pas vous laisser tranquille.
Ok. On n'a pas parlé des systèmes de détection de prévention d'intrus. Est-ce que c'est comme les firewalls? Parce que quand tu m'en parles, j'ai l'impression que c'est ce que tu mets juste après ton
Oui,
firewall.
c'est plutôt ça,
C'est ton espèce de
effectivement.
petit garde à l'entrée.
Oui, exactement.
Ok.
On peut le voir un peu de la même manière. Voilà, vous allez avoir des SIEM, des sondes. Les sondes, elles vont plutôt, enfin les sondes de détection, elles vont voilà recueillir plein d'éléments, que ce soit sur l'activité du poste de travail, que ce soit sur le réseau, les logs d'application, les choses comme ça. Elles vont et on va mettre ça, idéalement dans un SIEM. Enfin voilà, on va souvent plutôt parler de SIEM maintenant, qui vont permettre de détecter des corréler ces événements et d'identifier une action malveillante et derrière d'y répondre. Voilà, ça va être vraiment ça l'objectif. Et donc les DNDR sont un peu la version évoluée de ça, comme les EDR sont la version évoluée des antivirus aujourd'hui. Et l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de déployer ce genre de solution. Ouais.
Hyper intéressant. On va arriver sur la fin de cet épisode, mais avant j'ai encore quelques petites questions sur les réseaux, et puis après on abordera un peu le chiffrement aussi. Est-ce qu'un Wi-Fi ça sécurise?
Oui, c'était. Mais aujourd'hui, les techniques sont bien connues, mais c'est mettre en place des WPA2, ce genre de choses, et pas laisser un Wi-Fi ouvert. Ça arrive de moins en moins. C'est-à-dire que il y a quelques années, on trouvait beaucoup de Wi-Fi ouverts un peu partout. Les box, des fois, étaient par défaut en ouvert ou avec des algos qui étaient très faciles à craquer. Ça arrive quand même aujourd'hui de moins en moins. En général, le Wi-Fi maintenant est quand même sécurisé. Mais le fait que ce soit sécurisé pour quelqu'un qui n'ait pas accès ne veut pas dire que c'est sécurisé pour un invité qui arrive sur un réseau où il y a déjà plein de monde autour de lui.
Et là, souvent, les clés des réseaux Wi-Fi sont très longues, mais sont modifiables.
Oui.
Et il n'y a pas de nombre maximum de tests de code sur un
En
Wi-Fi.
fait, la clé. Ah
Ouais. Et
oui.
du coup, moi, je pourrais coder un algo qui va tester tous les codes possibles et imaginables, en commençant par les plus compliqués et les moins logiques. Et comme ça, je trouve.
En fait, l'algo qui est utilisé, alors j'ai travaillé dans le Wi-Fi il y a pas mal d'années, mais ça commence à être un peu loin. Mais l'algo qui est utilisé WPA2 justement pour ça, donc c'est un algo asymétrique. Mais il y a une clé de chiffrement qui est d'une longueur fixe. Je crois que c'est 256, je pense, 256 octets, que vous mettiez à un mot de passe court ou un mot de passe long. Enfin, une clé. À la fin, en fait, elle est traduite dans quelque chose qui fait 256 octets. Donc, en fait, c'est ça la longueur de la clé du Wi-Fi. Malgré tout, c'est vrai que si votre mot de passe c'est l'adresse de la, enfin, je vois ça des fois dans les hôtels, ou dans, enfin voilà,
Ouais, ou le nom
ou
du
le,
bar ou du
voilà,
resto,
exactement. Bon
ouais.
bah oui, ça c'est craquable comme un autre mot de passe finalement. Parce qu'effectivement, là, on peut tester sans fin. Effectivement. Donc c'est bien que ce soit quand c'est des séquences aléatoires, effectivement. Il y a eu des cas d'attaque aussi où il y avait une espèce de logique utilisée par les fabricants dans la constitution des clés par défaut, en fait, et donc il y a eu un moment où on pouvait comme ça reconstituer à partir du nom de la box le réseau. Après, des fois, voilà, typiquement, ce qui peut être aussi des bonnes pratiques, c'est de mettre le réseau en le Wi-Fi en masqué, qu'on puisse pas voir par défaut comme ça l'existence du réseau.
Ça,
Enfin
c'est
voilà.
quelque chose qui se fait souvent ou pas?
Ouais.
Parce que
Oui,
moi, je le vois
ça.
assez rarement quand même.
Bah, ça peut se faire facilement,
Ok.
mais c'est vrai qu'on
Ouais.
n'a pas forcément le réflexe. Ça peut être un peu moins pratique, peut-être,
Ouais.
j'imagine, au
Parce
quotidien.
qu'à chercher après pour
Ouais.
te
Oui, voilà,
connecter,
je pense que
etc.,
c'est ça
c'est.
qui. Ouais, voilà.
Ouais. On a fait un épisode sur la 5G. Et je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui peut être important, utile, pour avoir un réseau totalement clos et sécurisé au sein d'une grande entreprise, autre que juste pour faire de l'automatisation dans des usines?
Dans les usages peut-être, la 5G je la vois plus comme la techno en dessous.
Mais
Ça
plutôt la
c'est un
5G
moyen,
privée.
oui.
Ouais.
Je le vois comme une alternative au VPN. Dans ce cas-là, typiquement un VPN. Nous, depuis la création de Glimpse, on a commencé. Alors, on a créé l'entreprise en 2019. Quelques mois plus tard, c'était coronavirus. On était quatre à l'époque. Au début, on a commencé. Bon, on était chacun dans notre garage, hein, très clairement. Donc, on était dès le départ avec une infra à laquelle on accédait via un VPN et on faisait comme si on était de l'extérieur, même quand on était à l'intérieur. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc, c'est une alternative. Le VPN fonctionne bien justement entre les entreprises pour fournir un tuyau fermé dans lequel normalement tout doit passer. Après, c'est une alternative qui peut être aussi plus pratique quand il y a des usines, des choses comme ça. Enfin voilà, on n'a pas toujours, c'est pas toujours aussi simple que ça de mettre en place, voilà, j'imagine, du VPN partout. Donc ça peut être une bonne alternative, ouais.
Ok. On a parlé un peu de cryptographie, j'arrive à le prononcer, et de chiffrement. C'est quoi un peu les principes de la cryptographie? Tu as la preuve, j'arrive même pas à le prononcer tellement je connais pas ce mot. Bah, j'ai eu un ordre d'idée, mais...
Bah là, oui, non, bon, le principe, l'objectif, c'est bien de rendre un message non lisible par son interlocuteur, mais on va avoir trois grandes choses, on va dire. Alors, je suis pas un expert de la crypto, hein, mais voilà, trois grandes choses. La première, qui est extrêmement importante en sécurité informatique, c'est le hashage, les fonctions de hashage. Donc là, l'idée, ça va être de créer un condensat qui va être le plus idéalement unique sur la base d'un secret. Et on est sur des fonctions mathématiques qui sont non réversibles, c'est-à-dire que c'est facile quand on a un secret à hasher, à transformer, c'est facile de créer le hash, le condensat, à partir du secret. Par contre, quand on a le condensat, c'est très compliqué de remonter, c'est-à-dire de retrouver le secret d'origine. Et donc, ça va nous permettre de stocker, on parlait des mots de passe, on a beaucoup parlé des mots de passe tout à l'heure, ça va nous permettre de stocker les mots de passe, enfin, ça va nous permettre de ne pas stocker les mots de passe, justement, mais de stocker les hashes. Et l'idée étant que si on calcule le hash deux fois du même objet, on obtient le même hash. Mais si on a un hash, le but c'est qu'on n'arrive pas à remonter. Et donc on va stocker les hashes des mots de passe. Et quand on va chercher à s'authentifier à un site, l'idée c'est que le site il connaisse pas lui votre mot de passe. Et simplement on va tout de suite créer le hash du mot de passe et c'est ça qui va être envoyé au site. Et donc le site va comparer le hash que vous lui avez transmis avec le hash qu'il a lui dans sa base et il va voir si c'est les deux mêmes. Et comme ça il saura si c'est le mot de passe. Normalement, si vous avez le même hash, c'est que vous avez le même mot de passe. Il y a des exceptions un petit peu, il peut exister des collisions, ça arrive, il y a des choses, mais voilà, mais c'est extrêmement rare et c'est difficile à calculer.
Et le hash, faudrait qu'il soit domicilié, du coup, dans notre appareil et pas dans un cloud.
Bah, le hash, il peut être calculé à la volée, parce qu'en fait, si vous avez votre secret, vous avez le hash.
Ouais.
Et donc, le hash, si votre service auquel vous accédez, il est dans le cloud, c'est normal que le hash soit dans le cloud.
En parlant des mots de passe, tout à l'heure, on n'a pas abordé un sujet. C'est,
Non, j'allais dire quelque chose qui est difficile avec la crypto, c'est l'implémentation généralement. Et on a parlé un petit peu de vulnérabilité sans aller trop. Voilà, mais il y a beaucoup de vulnérabilité des fois dans la façon dont la crypto est implémentée, la cryptographie. Et c'est souvent là que le diable est dans les détails un petit peu. On a souvent de bonnes intentions et puis dans l'implémentation, voilà, on fait des erreurs. Il y a un cas qui moi m'avait marqué quand j'ai commencé à travailler dans le domaine de la sécurité informatique au ministère des Armées, un petit cas d'étude en fait. Hein, c'était pour l'apprentissage, mais c'est un cas réel, hein, c'est un logiciel réel. C'était je crois que c'était un serveur FTP, voilà, qui était fourni avec un client, donc pour échanger des données, voilà. Et donc il y avait une phase d'authentification au début, donc le client s'authentifiait auprès du serveur. Et donc pour cette authentification, il proposait plusieurs méthodes. Donc dans l'interface du client, on pouvait choisir deux méthodes en fait, soit on fournissait une clé, soit on s'authentifiait avec un login et un mot de passe. Et en fait, donc le serveur lui recevait un message au moment de la connexion, et dans ce message il y avait un petit champ qui disait si c'est 1, il y avait un petit champ qui avait une valeur. Si c'était 1, c'est authentification par mot de passe. Si c'est 2, c'est authentification par clé, quoi. Voilà, en gros c'est voilà. Et en fait dans le code c'était ce qu'on retrouvait. If dans le message il y a 1, alors je lance une authentification par mot de passe, et donc dans ce code-là, si l'authentification échouait, la connexion se fermait. Puis en dessous, il y avait si l'authentification c'est type 2, donc c'est je lance une authentification par clé, et donc là il partait sur l'authentification par clé, et si ça foirait, on coupait la connexion, puis ensuite le programme continuait. Et donc si on n'utilisait pas le client standard, mais qu'on forgeait soi-même un message, et au lieu de mettre 1 ou 2, on mettait 3 par exemple, enfin, n'importe quelle autre valeur en fait, et ben du coup, il n'y avait pas d'authentification. Et hop, on arrivait sur le système. Ça, c'est un exemple de vulnérabilité de conception, en fait. Où, à un moment donné, il y a une erreur de logique, en fait, qui fait qu'il n'y a même pas besoin là d'aller injecter du code, d'aller exploiter des vulnérabilités complexes.
Et ça, c'est vraiment très répandu.
Bah malheureusement oui, parce que là je suis parti sur un cadre très simple, et donc ce cas-là effectivement là, normalement dis, ça normalement vous le voyez plus trop, mais malgré tout faut se méfier. Mais en fait les applications sont de plus en plus complexes, et donc il y a de plus en plus de risques en fait de faire ce type d'erreur en fait dans un programme. La surface d'attaque finalement est le risque de faire des voilà est de plus en plus grande. Donc Malheureusement, les vulnérabilités de ce genre-là, bah oui, il y en a très souvent qui sont détectées. Il y a après les vulnérabilités très complexes. Alors, les très grands acteurs, justement, les Google, enfin voilà, mettent en place quand même des process qui font que ce genre de choses, on en voit de moins en moins. Et donc il faut aller chercher des fois des choses plus complexes, de l'injection de code, des choses comme ça, de l'exploitation, où là il faut vraiment, c'est une vulnérabilité d'implémentation là qui vont demander c'est un peu plus de la dentelle à construire, quoi, on va dire. Mais ces vulnérabilités de conception, oui, elles existent parce que c'est très facile quand on est dans le jus, quand on conçoit son truc, de faire ce type d'erreur en fait.
Okay. Pour revenir rapidement sur le mot de passe, tout à l'heure on avait parlé de la double identification.
Oui.
Est-ce que toi tu penses que c'est quelque chose d'indispensable ou pas? Moi par exemple aujourd'hui, je peux pas me connecter à tout ce que j'ai si il y a pas une double identification qui se fait sur un appareil qui a été enregistré comme étant un de mes appareils pour faire une double identification.
Ah oui, c'est une bonne solution parce que ça, en fait, quelque part, c'est encore une fois une sorte de coût et de coût pour l'attaquant et coût pour le défenseur. Quelque part, vous multipliez par deux les efforts pour que l'attaquant puisse accéder à votre site. Et donc, si jamais, en plus, il est dans une démarche opportuniste, ouais. De manière opportuniste, il peut avoir accès à un moment donné à un des deux secrets. C'est difficile d'une manière opportuniste d'avoir accès aux deux secrets en même temps. Enfin, il y a peu de chances qu'il ait accès.
D'autant plus si le deuxième est en offline et sur le hardware.
Voilà, exactement. Ouais. Alors là, il va essayer l'ingénierie sociale. Il va appeler, il va vous mettre en situation de stress et puis voilà, il va essayer de vous faire dire vous-même le. Voilà. Ouais. Mais voilà, ça c'est une très bonne chose la double authentification parce que en fait, c'est pas par deux que vous multipliez par la sécurité quand vous faites ça, c'est par beaucoup beaucoup plus en fait.
Et donc toi, tu la conseillerais par défaut?
Oui.
Et même sur des trucs type Google Authenticator ou
oui,
chez Microsoft avec son truc.
Ouais,
ok.
Oui, parce que c'est un truc en plus, en fait.
Ouais.
Donc, c'est,
voilà. Okay. Ouais. Donc plus t'en mets, mieux c'est.
Voilà.
Okay. On n'a pas parlé des certificats numériques et des protocoles de sécurité liés au chiffrement. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter là-dessus ou pas? Je t'avoue que j'y connais strictement
non,
rien.
Non, alors c'est vrai que... l'idée des certificats, ça va être, on a parlé donc des hachages, du hachage, des fonctions d'hachage, mais dans la crypto, après, il y a le chiffrement. Donc, ça peut être du chiffrement symétrique. Le chiffrement symétrique, ça suppose que les deux personnes connaissent le mot de passe, celui qui chiffre et celui qui déchiffre. Donc, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut transmettre le mot de passe et donc, si on le transmet, il y a un risque qu'il soit communiqué de manière un peu plus large. Donc, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle la cryptographie asymétrique, qui est très puissante, en fait. La cryptographie asymétrique, on a une clé publique, une clé privée. Et donc en fait, on va garder la clé privée, on va communiquer la clé publique aux personnes qui vont vouloir déchiffrer le message. Et ce qui fait que avec la clé publique, on sera pas capable de chiffrer le message. Donc la clé privée, elle sort jamais, c'est elle qui sert à chiffrer, et la clé publique, elle sert à déchiffrer. Et donc quelque part, ça vous évite d'avoir à transmettre un secret entre les deux. L'inconvénient, c'est que c'est plus long d'un point de vue algorithmique. Donc sur des grandes quantités de données, en général, on le fait pas. Mais ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va chiffrer de manière asymétrique la clé symétrique sur laquelle on va ensuite se mettre d'accord, qui servira à chiffrer et déchiffrer. Et donc, ça permettra de l'échanger de manière sécurisée. Et donc, derrière, si on va vers les certificats, le problème, malgré tout, de cette histoire de clé publique, clé privée, c'est que vous êtes obligé de faire confiance à un annuaire, à un moment, à des informations, en fait, qui sont, publiques et qui peuvent être, qui peuvent, en fait, être transformées. Et donc, on va faire confiance à des tiers, derrière, qui vont gérer ce qu'on appelle des certificats, qui vont certifier que la clé de Cyril Vigneault, et bien la clé de Cyril Vigneault. En gros, voilà, ça va être ça l'objectif. Il y a derrière tout un tas, alors c'est très bien, c'est très utile et c'est très important. Il y a un enjeu du coup derrière, c'est la chaîne de confiance. C'est-à-dire qu'on délègue finalement la confiance à une entité à qui on décide de faire absolument confiance. Et donc on voit de plus en plus d'attaques aujourd'hui, des attaques de type supply chain. Alors là, on en parle sur les certificats, c'est des choses qui vont arriver. Si à un moment donné, on obtient les certificats, ce qu'on appelle les certificats racines, les certificats de l'autorité de confiance, et ben les attaquants du coup peuvent se faire passer pour des gens de confiance parce qu'ils ont volé ces certificats. Donc ça, c'est un enjeu. Et c'est des attaques qui se répandent. Les attaques par supply chain ont tendance à se répandre un petit peu. Et donc ça, on le voit sur les certificats. C'est des choses qu'on voit aussi dans le code. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus, l'ANSI l'avait prédit en 2022, et c'est des choses qu'on voit effectivement en 2023, de plus en plus d'attaques où les attaquants, pour finalement aller dans le système sans avoir à trouver une vulnérabilité, ils vont l'introduire, la vulnérabilité. Et donc, ils vont peut-être essayer de patcher des codes open source qui vont être utilisés dans les programmes pour y ajouter des vulnérabilités. Ou alors, un truc qui se fait aussi beaucoup, c'est du typo squatting. testing sur des projets GitHub qui sont assez populaires, par exemple, où un attaquant va essayer de reprendre le projet, il va changer le nom en mettant un chiffre, un truc à caractère spécial à la place d'une lettre sans que ça se voit, pour faire croire à n'importe qui, quand elle télécharge le logiciel, que c'est celui qui est légitime. Et en fait, non, c'est une version modifiée avec un petit truc malveillant dedans qu'on va comme ça essayer d'intégrer dans la chaîne de fabrication. Donc ça, c'est des attaques par supply chain, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais c'est des choses qui se développent beaucoup. Il y a eu une attaque il y a quelques temps qui s'appelle SolarWinds, qui a fait énormément de dégâts sur justement un système de sécurité où les attaquants avaient réussi à venir mettre du code malveillant dans un produit qui était ensuite déployé chez plein d'entreprises, notamment aux États-Unis, dans des entités gouvernementales. Et donc ça a fait beaucoup parler parce que ça, c'était un produit qui était déployé énormément et donc qui ouvrait des accès à énormément de systèmes, en fait.
Durant tout cet épisode, on se rend compte, en fait, que de une, la cybersécurité, elle doit être omniprésente dans notre quotidien parce que les attaques cyber peuvent être omniprésents dans notre quotidien parce qu'on a tout le temps un téléphone à la main, tout le temps un ordinateur pour travailler, que même on enregistre ce podcast sur une table son qui potentiellement
est vulnérable.
Quoi.
Oui.
Donc on se rend bien compte que c'est omniprésent. Est-ce que tu aurais 5-6 petites best practices à nous recommander pour justement faire... Se protéger le mieux possible. Même si on n'est jamais totalement protégé, on peut essayer de tendre vers quelque chose qui nous sécurise un minimum.
Donc effectivement, on disait les mots de passe, utiliser un KeePass, utiliser les mots de passe uniques, utiliser le principe de moindre privilège, c'est-à-dire que ne avoir des accès qui ne donnent accès idéalement qu'à ce qu'on a strictement besoin. Et donc peut-être avoir plusieurs accès à plusieurs comptes finalement pour un même sujet, mais avec des droits différents, ce qui permettront que si jamais il y en a un qui est perdu ou qui est devenu inaccessible, on n'ait pas accès à tout. Ça en entreprise, c'est très important, très utilisé, ce principe du moindre privilège. En entreprise, on parle aussi de zéro trust de plus en plus. L'idée étant de se dire que l'attaquant, il vient pas forcément de l'extérieur, c'est-à-dire qu'à un moment il est venu de l'extérieur, mais bon, il va rentrer quoi. Et donc, faut toujours se dire que quelque chose qui vient de l'intérieur n'est pas forcément fiable. Donc ça aussi, garder ça en tête. Se dire aussi, prévoir, se dire toujours, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais voilà, si je me fais attaquer, qu'est-ce que je risque de perdre, et donc du coup, qu'est-ce que je mets en sécurité au cas où ça arrive, prévoir le coup, et puis avoir une démarche de paranoïa saine, j'allais dire, hein, donc toujours remettre un petit peu en question ce qu'on reçoit. Essayer de garder en tête, notamment sur des échanges vocaux ou des choses comme ça, que si on commence à nous mettre la pression, c'est vrai pour la sécurité, c'est vrai généralement pour toute activité commerciale. Quand en général on commence à vous mettre la pression et à vous mettre dans une situation un peu de mal-être, si vous vous sentez mal, c'est le moment de prendre du recul, prendre une petite pause, respirer un grand coup. Ça changera pas la face du monde et ça va peut-être ça va peut-être
faire économiser pas mal d'argent.
Voilà, exactement.
D'autant plus du coup dans un contexte d'intelligence artificielle massive, qui se déploie massivement, de tout le temps douter et être dans la vérification parce que le foie arrive très très vite.
Voilà. Et donc dernier point, je l'avais dit un tout petit peu, mais je le redis, quand on reçoit des mails, des pièces jointes dans les mails, des choses comme ça, quand on clique sur un lien, idéalement, idéalement le faire dans un environnement fermé qui limitera les dégâts si ça dénonce typiquement une VM qui va être dédiée à ça, voilà, ce genre de choses.
Ou essayer de repasser par l'origine.
Voilà.
Moi je clique pas sur un lien. Type, on me dit veuillez confirmer votre billet pour votre train, je sais pas quoi. Je passe par l'application sur laquelle j'ai
exactement
mon billet de train, quoi.
Voilà, exactement.
Et pas sur le lien qu'ils m'ont mis parce que je sais pas s'il y a derrière le lien, quoi.
Exactement. Et j'allais dire, je reçois par exemple énormément de CV, c'est un sujet, on reçoit énormément de CV, un CV c'est un super moyen d'attaque, quoi, donc faut toujours, moi je considère toujours quelqu'un malheureusement qui postule, c'est peut-être en fait un attaquant qui cherche à compromettre le système, et donc je considère toujours le CV au départ comme un malware potentiel, quoi, et donc il est toujours analysé par Guess Malware avant en l'occurrence pour moi, mais voilà, avant d'être ouvert.
Et même si t'es pas du tout iOS, juste avant de finir cet épisode, quand on utilise la fonction aperçu sur une pièce jointe, est-ce que ça l'ouvre ou ça l'ouvre pas?
Je connais pas iOS, mais si c'est bien fait, nous on a une fonction aperçu dans Guess Malware, par exemple, qui génère une image inoffensive d'un fichier, par exemple, pour montrer le contenu sans prendre aucun risque. Je sais pas du tout si c'est ça chez iOS, donc faut prendre voilà. Mais si c'est ça, c'est très bien. C'est un bon moyen typiquement quand vous avez un doute. Enfin nous pour les analystes par exemple qui vont étudier des menaces et qui savent pas encore si c'est vraiment une menace ou pas. Cette fonctionnalité de preview qui permet de on génère une image et on sait que cette image là sur la menace d'un fichier, on sait que on prend pas de risque d'infecter son PC en l'ouvrant. C'est effectivement quelque chose de plutôt performant. Mais
ok. écoute, merci beaucoup Cyril pour tous ces retours d'expérience, ces conseils,
merci
etc. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé parce que je sais pas, je passe à côté et qu'on aurait dû aborder un truc, voilà. Ou est-ce qu'on a fait un bon panorama de
Moi, je pense qu'on a fait un bon panorama du sujet, des risques qu'on encourt et effectivement des solutions qu'on a aujourd'hui, ouais.
Ok. Donc si on a une entreprise et qu'on veut avoir une solution d'intelligence artificielle, on peut discuter avec toi.
Avec plaisir, effectivement.
Avec plaisir.
Tout à fait.
Avec plaisir. Alors, je te dis ça parce qu'aujourd'hui, on a quelque chose comme, je crois, 45% de nos auditeurs qui sont des dirigeants qui, en fait, font leur veille sur des technologies de rupture, sur des technologies innovantes via ce podcast. Et chaque épisode doit permettre à nos auditeurs de déployer la technologie le mieux possible.
Pour décrire un tout petit peu la technologie de départ, en fait, de Guinness Malware, on parle de conceptualisation de code. Nous, au départ, notre métier, c'était de comparer du code. Et donc, la technologie qu'on a mis au point, elle permet de comparer très efficacement du code, même s'il y a eu des petites modifications. Aujourd'hui, ça me prenait 20 minutes, une demi-heure à partir d'un malware dont le code source avait leaké, d'en faire un variant qui n'était pas détecté par personne, en fait. Il y a très peu de choses à modifier pour ça. L'intérêt de cette techno, c'est qu'elle va remonter en abstraction et elle va être capable d'identifier quelque part la propriété intellectuelle des groupes d'attaquants de manière très efficace, même si elle a changé, même si elle a été modifiée. Et donc c'est vraiment ça l'intérêt de cette conceptualisation appliquée à la détection de code, surtout que c'est une techno du coup qui nous permet d'aller en profondeur mais très rapidement. En quelques secondes, on a un verdict sur un fichier, là où pour avoir ce niveau de détail, ce niveau d'analyse, il fallait auparavant beaucoup plus de temps.
Ok, eh ben écoute, merci beaucoup Cyril pour ton temps et très chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter qui est en description, qui décortique l'actualité tech et économique tous les dimanches matins pour commencer la semaine au mieux le lundi et puis à écouter les épisodes qui sont déjà sortis. D'ailleurs, on l'a pas cité, mais on a fait référence quand même à pas mal de petits épisodes qui sont déjà sortis, par exemple avec OVH, avec sur le réseau 5G privé, etc. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup Cyril et à très vite.
Eh ben, merci pour l'invitation.
Au revoir.
Au revoir.
Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.